Bonjour, je suis Steve.
Et moi, je suis Monsieur Nebony.
Et vous écoutez Comic City. C'est l'épisode 36 de notre podcast. Podcast de fin de mois, cette fois-ci un peu plus court qu'à l'habitude, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sorties en ce mois de juillet.
Ouais, d'ailleurs, on a repoussé certaines reviews à maintenant, quoi, pour avoir un petit peu plus de choses intéressantes à vous raconter. Parce oui, que là, ça en manque cruellement.
Oui, voilà. On n'a pas non plus tout fait, puisque bah, certaines publications valaient pas le coup. Donc voilà, ce sera un podcast un peu plus court que d'habitude. Nous aussi, on fait des semi-vacances, si on peut dire.
Ouais, si on peut dire, parce que on travaille pas mal en ce moment, mine de rien. Il y a des choses à arriver, en tout cas.
On va pas perdre trop de temps pour rester dans l'optique du podcast assez court, et on va commencer directement par les news, avec pas mal de news ciné, pour débuter.
Pas mal de news ciné, on commence avec l'acteur qui va jouer Hulk, donc dans les prochaines adaptations. Et à ton avis, qui cela va-t-il être ?
Ah, je sais pas du tout, puisque je n'ai pas été voir.
D'accord, donc ce sera Mark Ruffalo qu'on a pu voir dans Shutter Island aux côtés de Leonardo DiCaprio. Donc si tu as vu Shutter Island, tu auras une petite idée de la tête qu'il a.
Non, j'ai pas vu le film.
Bah voilà, bah je te le conseille tiens d'ailleurs. En tout cas, Mark Ruffalo donc va remplacer bah, Eric Bana et Edward Norton. Voilà, je vais chercher son nom. Edward Norton et bah voilà. En le voyant comme ça, je sais pas. Hein, moi perso, mon préféré c'était quand même Edward Norton en Hulk. Je trouvais que ça lui allait bien.
D'accord.
Le côté un petit peu gringalet de Bruce Banner, je pense, qui pouvait se transformer en Hulk. Je trouvais ça plus adapté à cet acteur-là.
Il ferait prendre Tobey Maguire. Là, ça ferait un vrai gringalet.
Ah ouais, ouais, mais Tobey Maguire, là, faut pas déconner non plus. Hein. Je le vois plus en Spider-Man, effectivement, maintenant qu'en Bruce Banner.
Selon Marvel, ils sont pas assez prêts, puisqu'on change le personnage de la Torche pour en faire Captain America.
Oui, d'ailleurs, Chris Evans donc sera Captain America, Robert Downey Jr. Iron Man, et normalement on devrait retrouver donc Mark Ruffalo en Hulk dans Avengers. On continue d'ailleurs sur Avengers puisque Hawkeye sera joué par Jeremy Renner.
Ça me dit rien du tout là comme ça.
Donc moi non plus. Mais en tout cas on a son nom. Donc faites une petite recherche si vous voulez voir la tête de l'acteur. Voilà. Okay. On continue toujours sur le cinéma avec les licences Punisher. Alors ça doit faire vachement plaisir, Steve.
Ah ouais, ouais, non, j'ai vu le Punisher, celui où il y avait John Travolta, qui
n'était
vraiment pas bon. J'ai vu Punisher Warzone où, moi honnêtement, je me suis marré, même si c'est pas un grand film, je me suis bien marré, c'était bien bourrin, donc voilà.
Bah oui, non, mais de toute façon, les Punisher, c'est vraiment le genre de film à mater entre potes pour bien se marrer le temps d'une soirée, quoi.
Et tellement c'est ridicule. Faut pas s'attendre à grand chose, quoi. Donc, voilà. Ils veulent continuer, c'est bien.
Bah oui, apparemment, c'est Marvel Studios qui reprend les droits du Punisher. Donc, qui voudrait refaire un film Punisher. Puisque c'était Lionsgate qui avait fait le Punisher Warzone. Et au fait, bah, ils ont perdu les droits. Donc, Marvel les récupère et peut-être sortira un nouveau film Punisher très bientôt.
C'est marrant parce que, avec Lionsgate et pour Punisher notamment, ils avaient essayé de créer un label, je crois que c'était Marvel Knights, pour les films, label qui n'aura duré le temps que d'un film, puisque Warzone a été un échec commercial total.
Total, ouais, cuisant.
D'ailleurs, chez nous, il est sorti en direct ou DVD, je crois.
Voilà, c'est dire. Et peut-être un prochain direct ou DVD aussi, puisque Ghost Rider, Marvel en parle en ce moment, il voudrait faire une suite à Ghost Rider, sans Nicolas Cage et sans Eva Mendes.
Oh, pauvre Nicolas Cage.
Puisque, au fait, il n'est pas disponible, hein, Nicolas Cage, on sait qu'il tourne un film toutes les semaines, environ. Comme nous, on fait des podcasts, quoi, à peu près la même cadence. En tout cas, c'est Marvel qui reprend les droits, enfin, qui reprendrait les droits à Sony, probablement, s'il devait y avoir un nouveau film.
Ah, de toute façon, c'est l'intérêt de Marvel de récupérer les droits de toutes leurs licences, de manière à faire les films qu'ils veulent, et par contre, ils pourront plus accuser personne si les films sont des merdes.
Ah oui, ça c'est clair, oui.
Enfin, jusqu'à présent, Iron Man était par Marvel et on a vu ce que ça donnait, quoi. Ça donnait des films quand même plutôt grandioses. Vraiment un grand spectacle. Je pense pas que toutes les licences soient du même niveau. Ça me paraît impossible, mais jusqu'à présent, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire des grands films.
Ouais. Donc, bon, bah, à voir si Ghost Rider, en fait, ressuscitera sous de meilleurs auspices, on va dire. Parce que le premier, là, c'est pareil, hein, c'est une calamité ce film. Je sais pas si tu l'as vu.
Non, non, non.
Et bien, tu le regardes jamais de ta vie, hein, franchement.
Non, celui-ci, j'ai vraiment fait l'impasse. J'en ai tellement entendu de mal que j'ai même pas voulu essayer. J'ai vu juste des bandes annonces, ça m'a suffi.
Je crois que c'est pire que tout. Pire que Spawn, d'ailleurs. Le film Spawn. Donc, non, non, c'était vraiment très mauvais.
C'est dire.
Alors, peut-être un film plus intéressant, ce sera, peut-être, je dis bien, Cowboy et Alien. Donc, Cowboy et Alien, au fait, c'est un comics de Fred Van Lente.
Oui, c'est ça. Ça a commencé par un graphic novel, puis après, quelques comics.
Et donc, Cowboy et Alien sera le nouveau film de Jon Favreau, justement. Jon Favreau d'Iron Man.
Voilà. On fait des espèces d'enchaînements, là, depuis tout à l'heure, quand même. Entre les Avengers pour Hawkeye, là, on parle de Iron Man, et hop, on file sur Cowboy et Aliens.
Voilà, et c'est pas fini pour les enchaînements, puisque dans Cowboy et Alien, on retrouve James Bond, le dernier James Bond en date, Daniel Craig.
Oui. Qui prend la place de Robert Downey Jr. qui était pressenti pour le rôle principal, mais il peut pas à cause de son emploi du temps.
Et ce sera, enfin, je veux dire, James Bond étant laïus, puisque MGM Studio en ce moment, bah, ils ont un petit peu de mal. Voilà. Et bon, bah alors pour ce film-là, je sais pas, toi, ça t'intéresse Cowboy Alien comme ça a priori ou...
Bon, je sais pas, faut voir. Je connais pas du tout le comic. J'ai juste vu quelques planches comme ça tout à l'heure vite fait en allant sur leur site officiel. Je sais pas, faut voir ce que ça donne.
Bon, pour moi,
c'est vraiment l'incertitude, quoi.
Ouais, pour moi, ça me fait penser à Men in Black avec Wild Wild West, les deux mixés, mais sans Will Smith, quoi. Voilà, pour résumer ma pensée.
Mais il y a l'air d'avoir du gros monde hein, dans ce film, quoi. Parce qu'on a Harrison Ford qui passe. J'ai vu qu'il y avait d'autres acteurs, mais ça y est, j'ai trop de mémoire. Il y aura pas mal d'assez gros acteurs dans ce film.
D'accord, donc bon, bah. Comme ça, sur le papier, on va dire que ça promet. On verra. On verra par la suite quoi,
ouais.
Ce que ça va donner. On continue sur le cinéma avec le Comic-Con qui a exposé non seulement le trône de Thor, enfin le trône de l'Empereur.
Et non pas le trône.
Oui. Oui, voilà.
Qui est un autre film.
Oui, non, voilà, c'est pas ça.
On commence les vannes pourries. Hein.
Voilà. Mais on a eu le casque de Thor surtout. Donc Thor aura bien son casque à plumes, mais à plumes en acier là. Donc ça fait un petit peu casque type 300 quoi, tu vois.
J'ai pas vu la photo encore.
D'accord, bon, c'est assez rassurant quand même. C'est pas le petit casque avec les petites ailettes ridicules. Donc
moi,
ça
personnellement, je suis super rassuré pour ce film. Hein. Plus je vois des images, plus j'ai la sensation que le film sera quelque chose de vraiment bien foutu.
Au moins j'attends le trailer pour prononcer personne. Voilà. Parce que ouais, je sais pas. Pour moi, ça fait un peu kitsch les images que j'ai vues. Alors, faudrait que je les voie en mouvement. Faudrait que je voie le trailer. Donc, vraiment, j'attends le trailer pour me prononcer.
D'accord.
Et on reste pas vraiment dans le cinéma, mais dans la série télé, puisque dans le Comic-Con, on a pu voir quelques images de Walking Dead.
Oui, même plus que quelques images, carrément une grosse bande-annonce.
Une grosse bande-annonce. Alors, on peut trouver sur Internet une vidéo amateur, on va dire, fameuse bande-annonce.
Je vous mettrai le lien. Dans l'article avec le podcast.
Bah que dire, ça s'annonce très bien.
Ouais, ça aurait été mieux avec une meilleure qualité d'image, c'est certain, mais faut se contenter de ce qu'on a et pour le moment faut voir. Ça peut être vraiment bien foutu. Là le problème c'est qu'on voit pas grand chose encore. On voit surtout l'intro.
En tout cas récemment il y a eu de nombreuses images qui ont circulé. On a notamment vu au fait tous les acteurs dans leurs costumes. Ça avait l'air vraiment assez ressemblant et intéressant avec le comics en tout cas. Donc à voir ce que ça donne.
Ouais.
Enfin moi je l'attends avec impatience, c'est vraiment la série que j'attends beaucoup en ce moment.
Allez, encore quelques mois à attendre, plus grand chose.
Ouais. Ah ben en attendant pour patienter, on va lire des comics. Et prochainement, qu'est-ce qu'on pourra lire? On pourra lire peut-être du cross-gen. Cross-gen revient, puisque au fait, cette gamme de comics avait été, au fait, les droits avaient été rachetés par Disney. Et maintenant que Disney est avec Marvel, eh bien CrossGen pourrait en venir avec peut-être une nouvelle gamme de comics. CrossGen avant c'était Ruse, c'était Meridian, c'était Sunjourn. Alors tu n'as pas lu ces comics, Steve?
Aucun.
Voilà.
Aucun.
Ah ouais, on va être honnête, moi non plus. Mais néanmoins, de grands noms sont sortis de cette gamme de comics, puisqu'on a eu Steve McNiven qui avait bossé dessus, Greg Land, Jim Chung. Donc, quand même, des artistes qui sont devenus de grosses stars, en fait, ces dernières années.
Ouais. Ouais,
de rien. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura de nouveaux titres dans cette gamme? Est-ce que ça va lancer de futurs superstars, notamment du point de vue des dessinateurs?
Mais vu que Disney appartient à Marvel, peut-être que ce sera un nouveau vivier à talent pour Marvel.
Ou une nouvelle gamme comics Disney, au fait, tu vois, CrossGen, ça va devenir un truc qui va publier les aventures de Mickey.
Je pense pas parce qu'ils sont toujours en contrat avec Boom. Et
Oui.
ça marche vraiment, vraiment bien. Donc
Ouais.
je suis pas sûr que Disney va rompre le deal avec Boom tout de suite.
Oui, tout à fait, ouais, tu as raison. Donc voilà, bon bah à voir ce que ça va donner. Dans les autres news non spoilantes, puisque au fait, vous allez avoir au fait des news avec un peu plus de spoilers normalement dans le prochain Comics Weekly.
Ben oui, normal.
Ouais, voilà. Exactement, on peut pas trop vous parler de Comics VO sans spoiler. Donc par contre, on peut vous dire que bientôt devraient revenir les Next Men de John Byrne. Donc bien longtemps après le premier volume quoi de leurs aventures, John Byrne va apparemment réaliser un second volume. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu les deux premiers en omnibus chez Dante il y a quelques mois, français. Donc bah on espère qu'on aura ce deuxième volume pareil très bientôt.
J'imagine que, en tout cas en anglais, ça sera publié chez IDW,
Oui, tout à fait, ouais.
puisqu'ils bossent énormément avec eux, notamment sur beaucoup d'adaptations de Star Trek.
Exactement, exactement. Ça revient en décembre, d'ailleurs.
D'accord, bah oui, c'est assez proche quand même.
C'est pour bientôt, et bah, c'est l'un des meilleurs travaux, on va dire, de John Byrne, de sa carrière. Donc c'est quand même un truc assez important, quoi. C'est un gros projet pour cet artiste. Si vous voulez en savoir plus sur le Comic-Con, vous allez avoir bah, rendez-vous sur le site, tout simplement, hein, puisque vous devriez avoir le résumé de tout ce qui s'est passé d'intéressant, on va dire.
Ben, vous l'avez même, parce que à l'heure où on enregistre, le résumé n'est pas encore posté, mais d'ici ce que le podcast soit en ligne, il le sera.
Voilà. Et donc vous pouvez prendre compte de toutes les petites news intéressantes, et on y reviendra bientôt dans Comics Wiki.
Cependant, attention au spoil pour ceux qui ne lisent que la VF.
Exactement, exactement, puisque là, ça va en contenir pas mal. Steve, tu voulais parler des Eisner Awards?
Oui, bien sûr, puisque le Comic-Con est aussi l'annonce des résultats des Eisners. Donc, j'ai noté, j'ai pas tout, on va pas tout annoncer puisque certaines choses sont moins intéressantes que d'autres. En tout cas, pour les plus intéressantes, le meilleur one shot ou épisode unique de cette année, c'est le Cap numéro 601, un Captain America, donc par Ed
D'accord, qui était
Brubaker.
réalisé par... Il y avait du Jen Colan dessus,
Jim
je dis.
Collan, oui, voilà, Jim Collan au dessin, Ed Brubaker au scénario. Bon, je l'ai pas lu, donc voilà.
Bah, on va bientôt le lire, je pense, en français, de toute façon.
Je crois, oui.
Donc, bah, voilà, on en reparle très vite, alors.
Meilleure série régulière, Walking Dead, qui a enfin son
Ah.
Eisner.
Ah, bah, alors là, voilà. Là, c'est vraiment... De toute façon, pour moi, c'est peut-être la meilleure série comics de ces dernières années, donc très bien.
Voilà. Meilleure mini-série, The Wonderful Wizard of Oz, par Eric Schanauer, pardon, et Scotty Young, qui est publié chez Marvel.
D'accord, qu'on n'a pas en français pour le moment.
Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est prévu encore. En meilleure nouvelle série de cette année, c'est Chou, qui,
Ah
pareil,
oui.
quelque chose qui le mérite beaucoup. J'ai lu le premier arc et c'est vraiment très très bon.
Oui, tu m'en as parlé, effectivement. Tu peux
Voilà.
peut-être faire le petit pitch en 3 secondes.
Ah bah c'est l'histoire d'un gars qui ressent les émotions, un peu comme les médiums peuvent avoir des visions des objets qui touchent. Lui, c'est les visions par rapport à ce qu'il mange. Donc,
D'accord.
et c'est un enquêteur. Mais tout ça se passe dans un monde complètement à part où le poulet a été interdit, un peu style prohibition, suite à la grippe aviaire. Il travaille pour un bureau qui enquête sur les gens qui propose du poulet dans les restaurants, ce genre de choses-là. Enfin, puis tout ça
D'accord, donc
dérape, voilà. J'en
en
dis pas
fait,
plus, mais c'est vraiment très très bon.
ce qu'il mange, il ressent.
Ah ben il a carrément des visions, c'est-à-dire que par exemple s'il mange une pomme, il va voir la pomme sur l'arbre, le trajet qu'elle a effectué, jusqu'à ce qu'elle arrive dans son assiette.
Ce qui n'est pas vraiment un pouvoir, puisque regarde, quand tu manges un poisson pas frais, bah ensuite t'es malade, donc tu ressens bien que le poisson n'était pas frais quand il est
Sauf
mort.
que lui, il voit tout, et bah, des fois pour résoudre certaines enquêtes sur des meurtres, je vous laisse imaginer.
D'accord, ok.
Voilà, c'est super crade, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de, même dans le dessin, c'est très particulier, ce qui fait que le côté archi crade de cette série est vraiment
Donc c'est un monsieur qui regarde son
calmé, quoi.
caca une fois qu'il a fait...
Non, 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 en fait, c'est vraiment au
Non,
moment
je
où il
sais,
le
j'ai
mange, quoi.
compris, hein.
C'est vraiment au moment où il le mange.
Oui.
Et il y a un seul aliment d'ailleurs qui peut manger sans avoir de vision, c'est la betterave. D'où le fait qu'il ait un teint très très rougeau, très particulier. Voilà.
D'accord.
Mais
Comme Raymond.
c'est vraiment complètement fou, mais c'est vraiment super bon.
Ok, d'accord.
Ça
Et
vaut la
pour le
peine.
moment, pas de date prévue pour une sortie française éventuelle.
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, mais
On
on en
croise
est
les doigts.
qu'à l'épisode de 12 ou 13, je crois, aux États-Unis pour le moment, donc la série n'est pas encore très très avancée. Meilleure publication d'humour, Scott Pilgrim volume 5.
Ah,
Donc
le fameux
c'est
Scott Pilgrim.
voilà, c'est intéressant pour eux d'avoir un Eisner alors que le film va sortir, quoi. C'est toujours une récompense supplémentaire qui permet aussi de donner un peu plus d'exposition au film.
Oui, puis de le mettre sur l'affiche du film d'ailleurs.
Peut-être, oui.
Bah, ce serait pas mal. Ouais.
Mais
Et
je suis pas sûr que beaucoup de gens sachent que c'est qu'un Eisner Award.
ah bah oui, mais ça fait toujours bien.
Ouais.
Qu'importe, qu'importe la récompense, c'est toujours bien d'en avoir une, sauf quand c'est un Gérard.
Quoique,
Quoique, oui.
si tu as beaucoup d'humour, dire que tu as gagné un Gérard, ça peut être une fierté.
Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs cette. C'était aux États-Unis. Est-ce que c'est les Gérards qui ont récompensé Halle Berry, par exemple, pour son rôle dans Catwoman?
Je ne sais plus.
Parce que je sais qu'elle a été, ré... elle a eu, elle a été récompensée pour le rôle le plus pourri au fait dans Catwoman. Et là, elle est venue, hein, elle est venue prendre sa récompense. Elle l'a acceptée, donc c'est bien.
Non, mais c'est bien que les gens aient un certain humour comme ça sur leur travail.
Oui.
Maintenant, on passe aux artistes eux-mêmes. Meilleur scénariste, Ed Brubaker.
Alors, voilà, ça m'a surpris là, Ed Brubaker, parce qu'Ed
Bah moi
Brubaker
aussi.
cette année, il n'y a pas eu grand-chose de Brubaker.
Ben, c'est pas sur 2010 en fait, c'est sur 2009, il faut voir. Ce qui est sorti en 2009.
Ah, uniquement en 2009 alors.
Oui. Ben oui, voilà. C'est ça, puisque les Eisner enfin, sont décernés en juillet 2010. L'annonce pour qui sont nominés, je crois que c'est au mois d'avril. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à l'année 2009.
D'accord.
Mais ouais, bon, ça en fait un de plus pour le livre.
Notamment pour Incognito, quoi, puisque en 2009, il y a eu Incognito de sortie.
Il y a eu du Criminal aussi.
Ah, il y a eu du Criminal?
Oui, le volume 4. Donc
Ah, d'accord. Ok.
voilà, enfin bon, Ed Brubaker, bon, c'est maintenant un classique, quoi.
Bah, il avait déjà reçu ce prix au fait en 2008. Mais alors en 2008, c'était la grande époque, j'allais dire, Captain America, Daredevil, etc. Là, j'ai trouvé que enfin, c'est descendu un petit peu, quoi. Captain America, Daredevil, ces derniers temps, c'était peut-être pas à son meilleur, quoi, sur la fin.
On continue. Meilleur scénariste artiste, c'est David Mazzucchelli pour son graphic novel Asterios Polype, qui a reçu d'ailleurs trois récompenses.
Ah oui, dis donc, oui, ça a été la fête pour lui, hein.
Il a aussi reçu meilleur graphic novel et meilleur lettrage.
D'accord.
Meilleur dessinateur encreur, J.H. Williams III, qui
Oui.
lui aussi le mérite amplement, je
Oui,
trouve,
voilà. Oui.
et qui remporte d'ailleurs aussi la récompense de meilleur cover artiste.
Oui, ce qui n'est pas étonnant.
Voilà. Et pour terminer, le meilleur coloriste de l'année est Dave Stewart, qui travaille sur beaucoup de choses chez Dark Horse, notamment Umbrella Academy, The Goon, Hellboy, entre autres, et puis aussi d'autres choses chez DC et chez Marvel. Voilà, c'est tout pour les principales récompenses des Eisner.
Oui, il y en a d'autres, mais des
Quelques
trucs.
trucs surprenants. Ouais, enfin oui, il y a d'autres choses, mais bon voilà, on n'a pas jugé bon d'en parler, quoi. Quelques annonces assez surprenantes. Notamment Ed Brubaker, c'est vrai que moi aussi je suis un petit peu surpris. Et puis bah beaucoup d'autres assez classiques quoi, comme Walking Dead enfin, qui est enfin son Eisner. On va enchaîner maintenant sur la partie jeux vidéo, qui était aussi très présente au Comic-Con cette année,
Bah ouais.
avec pas mal de petites choses.
De plus en plus présente puisque faut préciser aussi que le Comic-Con c'est un petit peu devenu la fête aux jeux vidéo, aux adaptations ciné, aux DVD, etc. Puisque au fait c'est tout ce qui est un petit peu le merchandising autour des comics. C'est un petit peu le paradoxe, quoi.
C'est surtout la fête aux comics, et comme c'est la plus grosse fête, bah, là, tout le monde essaye de s'en emparer, et finalement les comics disparaissent peu à peu presque du Comic-Con.
Voilà. Ouais. Et on commence avec une bande-annonce bien plus importante que celle qu'on vous présentait il y a quelques jours dans Comics Weekly, puisque c'est celle de DC Universe Online, mais elle fait à présent 6 minutes, donc elle s'est agrandie considérablement. C'est l'intégrale, au fait,
De la scène d'intro.
de la
Du
scène
jeu.
d'intro, exactement.
Et c'est vachement plus rassurant, je trouve, que ces quelques secondes qu'on avait pu voir la semaine dernière, qui, moi, m'avaient laissé un goût de bof, quoi. Là, franchement, je l'ai pas regardé en entier, j'ai vraiment accéléré le truc pour regarder quelques petits passages, mais ça m'a l'air nettement mieux. avec notamment des passages où on entend des voix, les personnages se parlent. Enfin, c'est un gros combat. Je vous laisse découvrir la scène. Je mettrai le lien là aussi dans l'article du podcast. En tout cas,
Oui, c'est pratique.
moi vraiment, vraiment, là, je suis un peu plus rassuré.
Ouais, c'est pratiquement un animé de 6 minutes qui est donc dont les personnages d'ailleurs sont réalisés, enfin les designs des personnages sont de Jim Lee. Hein.
Ouais.
Ça se voit d'ailleurs un petit peu. On continue avec des nouvelles images de Marvel versus Capcom 3.
Et
On a un...
pas que des images d'ailleurs.
Oui, enfin pas que des images, oui, je veux dire des séquences du jeu en action avec les nouveaux personnages au fait d'annoncer lors du Comic-Con. Donc on aura notamment en plus Fatalis, enfin Docteur Doom, Trish de Devil May Cry, Chun-Li et le Super Skrull aussi. Voilà. Et en tout cas, en les voyant en action, là, dans une séquence, on va vous mettre le lien également, ça a l'air d'être super bourrin et super super bon, quoi.
Ah oui, super bourrin, hein, oui, ça je confirme. Moi je sais que personnellement je dois être trop vieux pour jouer à ce genre de jeu, ça bouge tellement trop vite que je ne suis plus l'action, je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Donc ouais.
Oui, c'est
Je
tu
crois que
frôles la crise d'épilepsie. C'est
voilà, je suis trop vieux pour ça maintenant.
ouais, c'est dangereux même. Donc c'est pas réservé, enfin c'est pas pour tout public, quoi.
Ah mais rien que regarder le trailer, je comprenais à peine ce qui se passait à l'écran, quoi. C'est terrible.
Mais c'est un gros délire, Steve. C'est un gros délire. Il faut apprécier ce jeu à sa juste valeur.
Mais j'ai toujours eu du mal avec les jeux de baston, mais là je dois avouer que là ça me dépasse. Ça me dépasse totalement. Je ne comprends plus, voilà. Je suis resté à la génération d'avant.
Ouais. Donc
Mais
bon.
où est Street Fighter?
Oui, ben bah voilà,
De
c'est ça. Mais Street
tout
Fighter.
court.
Oui, mais voilà, maintenant c'est ça, Steve. La nouvelle génération. Et bah évidemment, donc qui dit Comic-Con dit annonce des éditeurs de jeux vidéo sur les personnages de comics. Et donc, on n'y a pas coupé. Il va y avoir un Green Lantern Rise of the Manhunters sur diverses plateformes de jeux vidéo.
Surtout pour coïncider avec la sortie du film, j'imagine.
Tout à fait. Et ça sortira notamment sur Xbox 360, sur la Wii, la Nintendo DS et la PS3.
D'accord.
Donc voilà. Et même il y aura même une adaptation PC normalement. C'est Double Helix qui se charge de ce jeu. Alors je crois que Double Helix c'était aussi eux qui s'étaient chargés de Batman Arkham Asylum.
D'accord, bon, ça laisse présager d'assez bonnes choses.
Donc si c'est eux, si je me trompe pas, eh bien oui ça reste ça devrait être bon quoi. Ça devrait être plutôt pas mal. Par contre là où je suis plus réservé c'est sur le jeu vidéo Thor qui a aussi été annoncé.
Là encore pour coller avec la sortie du film, hein.
Exactement. Par contre, le jeu est réalisé normalement par les gens qui nous ont fait les jeux Iron Man, en fait.
Ok, bon bah bye bye.
Sega sera l'éditeur, mais voilà. Donc, je sais pas. Hein. Faut voir vraiment ce que ça donne. Les jeux Iron Man, c'était pas terrible, terrible. C'était même très
Et
mauvais, d'ailleurs.
la différence déjà, rien contre le jeu Green Lantern, le jeu Thor, c'est que Thor, c'est juste l'adaptation du film, puisqu'il n'a pas de sous-titres, alors que Green Lantern a un sous-titre et donc ne sera pas forcément l'adaptation du film elle-même. De même que Batman Arkham Asylum n'était pas l'adaptation de Batman The Dark Knight.
Eh oui, tout à
Ce
fait.
qui donc le rapproche plus du comic, c'est un peu moins du film. Et donc on fait un peu moins une bouse parce que j'ai, enfin, rares sont les adaptations de films, même au-delà du comics, qui soient des bons jeux. Là, j'ai beau chercher, j'en vois pas un seul.
Ouais, non, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Il y avait un jeu, par exemple, sympa, Spider-Man sur PlayStation, qui était vraiment une adaptation du Spider-Man du comics, au fait, qui était assez sympa, mais alors je sais plus qui l'avait fait. Je crois que c'était Activision. Je crois que c'était Activision. Hein.
Mais là encore,
Mais
c'était pas une adaptation du film, mais plus une adaptation du comics.
non, enfin à l'époque, c'était vraiment une adaptation du comics, puisque le film n'était pas encore sorti, au
Voilà,
fait.
voilà. Donc, Bon bah, on verra bien, hein.
Bon, on verra bien ce que ça donne. Bon bah en tout cas, voilà, ça clôture un petit peu toutes ces news Entertainment Comic Con, puisque les news
Assez
sur
longue
Comics.
d'ailleurs. Assez longue, plus longue que j'aurais pensé au début, en fait. Mais, on va entamer les reviews maintenant. Et on commence nos reviews de cette quinzaine avec le DC Universe numéro 57. Les deux premiers épisodes du mag, ce sont les Green Lantern, volume 4, numéro 39 et 40.
Ouais,
Début
une nouvelle.
de l'arc. Oui, excuse-moi.
Oui ou non, mais au début d'un nouvel arc, au fait, avec les Orange Lanterns.
Oui, l'arc qui s'appelle Agent Orange. Donc ça commence avec... Ah non, déjà les crédits, ce sera peut-être mieux. Au scénario, on retrouve Jeff Jones, au dessin Philippe Tan et à l'ancrage Jonathan Glapion. Donc Philippe Tan qui fait ses débuts sur Green Lantern et qui reste d'ailleurs juste sur cet arc.
Et d'ailleurs, qui m'a vraiment étonné. puisque moi je j'avais l'impression. Alors attends, ou bien alors je confonds peut-être avec.
Ah oui, c'est
Attends
pas
ici.
Billy Tan, hein, c'est Philip Tan, c'est pas le même.
Non, pour moi, alors là
Je
je
peux dire
confonds
des conneries.
totalement en plus.
Mais ils n'ont pas du tout le même style en plus.
Oui, ben voilà, c'est pour ça que ça m'étonnait. Ok, d'accord, bah alors rien à voir.
Hein. Donc bah, Philip Tan, on avait pu voir pas mal de dessins préparatoires à l'époque où c'était sorti aux États-Unis. L'arc a eu un peu de retard aussi.
Ouais.
Et quand on voit les planches, on comprend.
Bah oui, c'est très fouillé, quoi.
Ça a été un petit peu mitigé hein, l'accueil aux États-Unis à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça superbe et des gens qui chiaient dessus pour être polis.
Moi je trouve que ça va bien avec Green Lantern et non, enfin moi ça m'a plutôt plu, quoi. Le je sais pas toi Steve, les dessins aussi.
Moi aussi j'ai beaucoup aimé notamment ces différentes constructions pour justement la Force Orange, quoi. Toutes les
Ouais.
constructions qu'il fait, enfin, ses pages sont vraiment très fouillées, quoi.
Mais par contre, l'histoire, moi c'est plutôt sur l'histoire en fait que j'émets des réserves.
Ça commence avec les Controllers, on n'est pas vu depuis un bon bout de temps, qui décident d'aller sur une planète du système Vega et de récupérer cette force orange. Et bah, mauvaise idée pour eux, en fait.
Oui, on s'en doutait ça quand même, que
Très
ça allait pas
mauvaise
être
idée pour
facile.
eux. Eux qui étaient soi-disant super balèzes, bah là ils sont pas restés en vie très longtemps. Et donc on voit un petit peu comment on a les prémices de la façon dont marche le pouvoir justement de Larfleeze, puisque c'est le nom du chef de cette force orange, qui a ouais, vraiment un style très particulier.
Oui, qui a un style très particulier et puis surtout qui, au fait, sert de narrateur aussi pour l'histoire.
C'est vrai aussi, oui.
En partie. Ce qui est un petit peu déstabilisant en fait. Là, je sais pas, j'ai pas retrouvé vraiment le Geoff Jones habituel sur ces épisodes. Ça m'a un petit peu perturbé. J'avais l'impression de lire par moments du Grant Morrison. Je veux pas être méchant avec toi, mais
Oh, la
avec Geoff Jones,
comparaison.
mais non, mais franchement, là, j'étais un petit peu déstabilisé. Je me disais merde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas lu du Green Lantern depuis très longtemps et que j'ai du mal à m'y remettre? Mais
Y a
là, j'ai
aussi ça
vraiment eu
qui
du
joue.
mal.
Il y a aussi ça qui joue, honnêtement.
Ouais, je
Puisque bah,
pense.
tous les 2 mois, c'est le même problème, quoi. C'est ce qu'on disait encore la dernière fois pour DC Universe. Tous les 2 mois, c'est difficile de repartir dedans, quoi.
Ah totalement ouais. Là ça a été vraiment très dur. C'était la première fois que ça me faisait ça et j'ai eu des absences durant la lecture de ces deux épisodes. Je me disais même, mais attends, est-ce que j'ai pas loupé des trucs? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs dans Green Lantern Corps pour comprendre mieux ce qui se passe?
Alors oui, là je vais te répondre oui, notamment avec le passage sur la Zamarone, donc la force violette, qui
Ah
va
bah voilà.
retrouver John Stewart, ça, ce sera résolu dans les pages de Green Lantern Corps.
Voilà, bah par exemple ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me disais, mais de quoi parle-t-elle? Voilà. Donc c'est bah voilà. Donc non seulement il y a 2 mois qui ont passé, mais en plus, comme il y a des choses qui se passent dans Green Lantern Corps en même temps dont on parle là, et bah voilà, j'ai eu un peu de mal, franchement, avec ces épisodes.
Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais enfin, celle de justement cette Violette Lanterne. Mais je crois que sa transformation en Violette Lanterne, alors qu'elle venait du Sinestro Corps, a eu lieu justement dans les pages du Green Lantern Corps à la base.
Ah d'accord, ok. Bon, on voit un
Voilà.
petit résumé quand même au début hein, de
Bah,
ce qui vient de lui arriver.
c'est expliqué quoi, mais c'est vrai qu'on assiste au truc dans les pages de Green Lantern Corps. Et c'est dommage parce que là, il nous manque vraiment quelque chose, et pour Blackest Night, ça va être un peu dur.
Ouais, Blackest Night qui arrive en novembre.
Ouais, ça me fait rire ça aussi. Puisqu'on va bouffer 2 Green Lantern le mois prochain et 3 le mois suivant. Enfin, le prochain numéro et 3 le mois, le numéro encore d'après. Ce
Voilà.
qui est, je trouve, un peu trop, pour bien l'apprécier.
Ouais, autant s'acheter des TPB américains, quoi.
Bah oui, ça va plus vite. Sinon, bah, on a Hal qui est moitié vert, moitié bleu.
Oui, tout à fait, voilà, et qui est plus fort que jamais, du coup.
Qui a quand même sa puissance qui est rendue à 200 et quelques, 210%. Ce qui est très fort, et on a une bonne explication de comment marche le pouvoir de ces Blue Lanterns. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des verts pour avoir du pouvoir, justement.
Est-ce qu'on en verra d'autres des Blue Lanterns? Parce que là, on voit toujours les deux mêmes.
Bah, c'est un corps en construction, en fait, et ils recrutent des membres petit à petit.
Ah oui, vraiment petit à petit, quoi.
Et
Parce que là, en
en
gros.
fait, c'est expliqué, c'est que une fois qu'ils ont rempli la chose, enfin, qu'ils ont réussi à faire la chose qu'ils espéraient, la bague peut passer à quelqu'un d'autre. Et
D'accord.
c'est comme ça qu'ils recrutent des nouveaux membres. Donc il n'y a pas beaucoup de bagues en fait.
Et que dire de plus sur les Orange Lanternes, du coup
Mais ça n'a pas été dit clairement encore, mais bon, ça c'est assez compréhensible. C'est le pouvoir de l'avarice.
Et
Donc,
non pas des varices.
ce qui est plus difficile pour marcher ensuite.
Oui, voilà. Ce qui pourrait être un bon pouvoir d'ailleurs, de filer des varices à ses adversaires.
Mais
genre filer des varices à Quicksilver, je pense que là,
ça
il va pas
gêner.
loin.
Ça pourrait le gêner, effectivement.
Voilà.
On a aussi bah, les Guardians qui pètent les plombs sous l'impulsion de Scar. D'ailleurs, je comprends pas comment ils peuvent se laisser berner aussi
Bah oui,
facilement.
moi aussi, non mais tu vois, moi je me dis vraiment, j'ai encore une fois, tu vois, sur ce passage-là, j'avais l'impression d'avoir loupé des choses, quoi. Alors je me suis demandé est-ce que ça se passe dans Green Lantern Corps, est-ce que voilà. Puisque là, on a l'impression qu'ils sont totalement ou manipulés ou totalement crédules. Mais pour des gardiens, c'est assez étonnant quand même.
Ouais, ils sont vraiment crédules, quoi. Ils se laissent avoir par Scar. J'ai du mal à comprendre pourquoi. D'ailleurs, pas tous, hein, puisqu'on voit que certains refusent diriger cette nouvelle loi qui leur permet d'entrer dans le système de Vega. Et là aussi, on apprend un petit peu que les gardiens sont mêlés avec justement cet agent orange. Alors, on ne sait pas encore de quelle façon, mais ça, on le saura dans les prochains épisodes. Mais voilà, ils ont leur part de responsabilité vis-à-vis de ça.
D'accord, ok. Mais enfin, bon, voilà, quoi. En résumé, pour ces deux épisodes-là, j'avais l'impression d'être un peu largué, et chose que j'ai pas du tout ressenti sur l'introduction des Blue Lanternes, des Red Lanternes, etc. Où là, vraiment, c'était limpide. Mais cette fois-ci, waouh, wow, quoi. J'ai eu un petit peu de mal à m'y remettre. Alors, je sais pas si c'est les 2 mois ou si c'est
De toute
la
façon,
narration.
cet arc est assez spécial. Jones a essayé de changer un petit peu son style d'écriture
Oui, j'ai l'impression quand
et
même.
ça se sent. Ça se
Ouais, ça
sent.
se sent même beaucoup pour ma part. Enfin bon, c'est pas mauvais non plus, hein, mais je sais pas, j'ai été plus transporté d'habitude, enfin j'étais plus transporté d'habitude par Green Lantern que là.
Bah ouais, mais c'est un constat pour beaucoup, hein, d'ailleurs. Cet arc-là a été assez décrit aux États-Unis.
D'accord. Bon bah tant mieux. Enfin, je suis pas le seul à avoir ressenti un truc bizarre, quoi.
On avait aussi à la fin un petit backup sur justement l'Orange Corps, dessiné par Raphaël Albuquerque et ancré par lui aussi d'ailleurs.
Ouais, au fait qu'il racontait un petit peu l'histoire de l'un des membres de ce corps-là,
À la
comme on a
manière
eu
de.
avec.
Voilà, exactement. Bah, je te laisse finir, vas-y.
Oui, comme on a eu avec le Sinestro Corps, quoi, c'est ça?
Voilà, et puis les Red Lantern Corps aussi, je crois qu'on en avait eu un ou deux.
Ouais, aussi, ouais. Et donc là, c'est. Alors je sais plus son nom, mais c'est l'espèce de petit glouton, quoi.
Globulus, je crois.
Globulus.
Ou Globulus, je ne sais plus, quelque chose comme ça.
Globulus, ouais. Enfin, un truc vraiment comme ça, effectivement. Et bon bah, on va pas raconter son histoire, quoi. On vous laisse découvrir sa petite histoire, mais enfin voilà, c'est vraiment dans le même type d'histoire qui raconte l'un après l'autre. Alors je suppose qu'on aura d'autres histoires de l'origine des membres du corps.
Je crois, oui, je crois qu'il y en a une ou deux encore. Mais qui sont de toute façon à la fin de chaque épisode aux États-Unis.
Voilà, comme d'habitude.
En tout cas, moi je sais que j'aime beaucoup la façon dont marche le pouvoir des Orange Lanterns. Après, bon, j'aime un peu moins Larfleeze. Le personnage est trop trop taré pour moi, mais
Bah,
voilà, j'aime bien comment ça marche.
faut voir où ça va parce que voilà, pour le moment en plus même leur pouvoir, même leur fonction, etc. c'était un petit peu nébuleux. Et là on a quoi? On a encore 2 autres parties à cet arc-là?
Deux, oui, je crois.
Donc bah à voir dans la deuxième partie de cette saga ce que ça donne, quoi. Puisque là pour le moment, les Orange Lanterns, je les ai pas trop cernés encore.
Normal. C'est fait, c'est volontaire de toute façon de la part de Geoff Johns. Normalement, tout devrait s'éclaircir au prochain épisode, puisque ce sera l'origine de Larfleeze.
Oui, enfin, tout devrait s'éclaircir, sachant que ça va être le prélude à Blackest Night, je ne suis pas sûr que ce soit le bon thème.
Oh, joli.
Oui. Donc, voilà.
Bah, puisque tu parles de Blackest Night, on va passer donc à. Oui, je sais, c'est une vanne très pourrie, tu vas voir. À JLA numéro 33.
Oui.
Scénarisé par Dwayne McDuffie, au dessin Marax Morales et à l'ancrage John Dell. Et donc on continue sur un peu l'univers Milestone. Voilà,
Oui,
Blackest
encore, oui. Alors,
Night.
j'espérais que ce soit terminé, mais au fait, pas du tout.
Ça y est.
Encore cet univers Milestone.
C'est là que la blague prend tout son sens. Milestone, univers Black Night.
Ouf.
Non, c'était. Oui, c'était
Oui,
pour.
je pensais que t'allais faire plutôt. Ben non, mais je pensais que t'allais faire en plus une blague avec le Docteur Light.
Ah oui, j'aurais pu. Mais
En
j'y ai pas
plus,
pensé.
qui se retrouve justement dans une dimension noire, quoi.
Mais je sais pas, enfin là ça bouge tellement. Avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment eu l'impression d'être un peu englouti en fait par tout ça.
Bah moi justement j'ai pas eu cette sensation qu'il se passait énormément de choses puisque je trouve que c'est un arc qui traîne vraiment en longueur là, avec l'histoire
On en est à
de
la partie 6 déjà.
ouais 5 ou 6 je sais plus mais
6,
en
ah
tout
bah je te confirme, c'est 6.
d'accord et Dr. Light qui est en plus Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'elle est emprisonnée dans cette dimension, en fait ça doit dater du dernier épisode.
Oui.
Mais c'est pareil quoi, tu vois, c'est comme avec Green Lantern, c'est au bout de 2 mois, on a l'impression qu'en plus c'est d'autant plus long.
Ah bah, moi honnêtement quand j'ai repris l'épisode je me rappelais même plus de rien quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien, ça m'est revenu ensuite, mais très vaguement quoi. Il a fallu que j'aille relire, enfin rejeter un œil à l'épisode un petit peu d'avant pour mieux comprendre ce qui se passait quoi.
Ouais, et puis en plus l'intrigue avec les membres restants en fait de cette équipe, j'ai pas l'impression que ce soit super important, et pourtant à la fin il se passe un truc, on a l'impression que c'est énorme là par contre.
Bah on a le. En fait, plusieurs de ces histoires convergent ensemble.
Ouais.
Et donc il remet l'ensemble, enfin il remet tout ensemble, quoi. Limite, on pourrait croire que. De toute façon, déjà, le prochain épisode sera son dernier, et sur JLA. Et on pourrait croire qu'il est en train de terminer son run, alors qu'en fait, il a été éjecté purement et simplement.
Oui.
Comme
un malpropre.
Hein. Ah bah oui, non, mais clairement.
Oui.
Et alors que là, c'est vrai que la façon dont c'est fait, on a l'impression vraiment que c'est genre, on s'approche de la fin de son run et qu'il termine toutes ses intrigues. C'est vraiment le hasard, quoi. Par contre, je sais pas s'il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si tu l'as vu. Non seulement donc il nous ramène l'univers Milestone où la plupart des héros étaient black,
ouais.
puisqu'il défend énormément la cause noire, étant noir lui-même, Dwayne McDuffie, et qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de noirs dans la population super-héroïque. Et là, l'équipe de JLA qui nous reste, enfin en tout cas celle que l'on voit agir, n'est qu'une équipe de black d'ailleurs. Puisqu'on a Hardware.
Il y a Zatanna quand même.
Oui, mais enfin elle n'est plus à la fin.
C'est vrai.
Il y a Hardware qui est black puisqu'il vient de l'univers Milestone, on a Vixen qui est black, on a John Stewart qui est black, et Firestorm qui est dont la personnalité dominante, c'est le petit gamin black. Donc c'est assez drôle, il nous a fait une JLA en fait quasiment totalement black. Et d'ailleurs, bon, ce qui reste, ce qui est en minorité, c'est Zatanna et Black Canary qui sont blanches. Donc c'est vraiment les choses inversées, et Dr. Light est asiatique.
Ouais, effectivement.
Alors, il n'insiste pas trop là-dessus, hein, mais je trouve que c'est une chose assez marrante qu'il ait vraiment essayé de mettre la minorité en fait en majorité et inverser la tendance.
Oui, et puis il termine un petit peu son run sur une JLA All Black, en fait.
Mais c'est au-delà des problèmes qu'il a eu avec DC, je me demande si ça n'a pas été une petite cause qui aurait joué sur le fait qu'on l'ait gentiment écarté de cette série.
Oui, je sais pas, oui, parce que peut-être que ça lui tenait trop à cœur et que DC a trouvé que c'était, enfin que ça n'allait pas être porteur, quoi, comme équipe.
Ah, ouais.
Malheureusement, donc, enfin surtout malheureusement pour lui, puisque en plus il est pas mauvais hein, comme scénariste, mais le problème c'est que tout son run a été au fait éditorialement contrôlé, on va dire, puisqu'il
ouais,
a dû,
pour être gentil.
Oui, voilà. Il a dû participer à tous les tie-ins possibles, imaginables, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même hâte de savoir qu'est-ce que ça va être la suite, puisque ça se termine sur un truc, comme je disais, assez surprenant quand même.
Oui, tu verras.
Voilà, bon, dans 2 mois, malheureusement, on va
dans
falloir
mois,
encore...
La fin, voilà.
Voilà, on mettra le couvert dans 2 mois là-dessus, et puis on verra où ça mène tout ça.
En tout cas, vraiment, je trouve que c'est très old school. Hein. En tout cas, sur cet
épisode-là, ouais.
On a vraiment des phases de dialogue entre les personnages qui, en plus, te récapent un petit peu l'histoire, et on a aussi des phases d'action plus prononcées, enfin... Ça parle beaucoup, j'ai vraiment eu l'impression de dire un comics années 80 en fait.
Ah ouais, c'est très long, hein. Ce DC Universe d'ailleurs m'a mis j'ai mis longtemps à le lire. Ouais. Déjà le Green Lantern c'était plus ample que d'habitude, j'ai trouvé, et puis la suite aussi.
On passe aux 2 derniers épisodes du mag. Ce sont les JSC volume 2, 3, volume 3.
À force, on ne sait plus.
Ouais. Numéro 24 et 25. Scénario Jeff Jones et Jerry Ordway, au dessin Jerry Ordway et à l'ancrage Bob Wiasek.
Et ben là, on est vraiment dans le old school total.
Ah, total, oui. Ne serait-ce que par les dessins, de Jerry.
Ne serait-ce que par les dessins, puis même dans le style de narration. Alors, évidemment, Jeff Jones est là épaulé par Jerry Ordway, donc ça doit aider pas mal dans ce sens-là. Mais voilà, donc on est sur le retour de Black Adam et de toute la famille Marvel, au fait.
Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Ça continue ce qui avait été commencé il y a 2 mois. Il se passe encore une fois plein de choses hein, dans ces 2 épisodes. Et on a une sorte de résolution sur cette affaire de la Marvel Family.
Exactement, ouais. Ça remet en ordre, au fait, ça redistribue les cartes, au fait, au sein de la Marvel Family. Et on va pas dire qui, mais au final, il y a plus qu'un descendant légitime de Captain Marvel, quoi.
Moi, j'ai même pas l'impression qu'il en reste un.
Ah, moi, je dirais qu'il en reste un, mais on va pas dire qui, donc. Donc, bon. Ouais, enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue, moi. J'ai l'impression que il reste, au fait, un, un personnage qui va reprendre le flambeau de Captain Marvel.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, faudra voir la suite. Puisque finalement, JC continue dans 2 mois avec 2 épisodes.
Les deux derniers, par contre, je crois, qui vont clôturer, au fait, le run de Geoff Jones.
Ouais, je croyais que ça s'arrêtait ce mois-ci, mais en fait, non.
Non, non, c'est
Ce
apparemment les deux
qui...
derniers. Ouais,
Bon, non, je
apparemment.
trouve bien ça bien, en fait, tout simplement, parce que c'est une bonne série, donc voilà.
Ouais, et puis apparemment le dernier épisode, donc de dans 2 mois, devrait clôturer totalement le travail de Geoff Jones sur la série, puisqu'ensuite il partait vers autre chose. Et JSA donc ne sera plus dans DC Universe de toute façon.
Ce qui est dommage.
Ce qui est dommage, oui. Alors je sais plus qui reprenait après Geoff Jones.
Juste après, je sais pas, mais maintenant c'est Bill Willingham.
Ah oui, en plus, oui, ça aurait pu être intéressant.
Je crois qu'il y avait un arc intermédiaire, mais je sais plus par qui. Enfin bref. En tout cas, ouais, bah, enfin, deux bons épisodes. On peut pas trop en raconter là, sinon vraiment on spoil.
Bah oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que vraiment c'est sur la Marvel Family, donc avec le retour de Black Adam, comme je l'ai dit, qui en fait, je
Fidèle
pense
à
que
lui-même.
qui est fidèle à lui-même bien sûr, mais je pense que pour bien appréhender ces épisodes et bien les comprendre, il faut quand même déjà avoir lu peut-être 52 en VF, par exemple.
Oui, et puis avoir lu aussi le run de Geoff Jones sur JSA, la série JSA, celle qui était avant Justice Society of America, où Black Adam faisait partie de l'équipe. D'où
Ah, tu veux
son
dire ce qu'on a eu en Big Book en français?
nom.
En
Oui,
partie.
peut-être, ouais.
D'accord. Parce qu'il y a eu deux volumes de JSA, mais c'était la série, donc le relaunch de 99.
Eh ben, c'est ça
D'accord,
qu'il
voilà.
faut aussi lire, puisqu'on comprend mieux un petit peu les interactions entre notamment Black Adam et Atom Smasher.
On a dû avoir grosso modo 25, les 25 premiers épisodes, quoi. Dans deux
D'accord.
Big Book.
Ben voilà, donc c'est pour ça aussi que Black Adam a aussi autant à passer avec la Justice Society, c'est pas sorti du chapeau de Geoff Jones comme ça.
Ouais. Bah, que dire d'autre? Ça clôture le magazine, mais le problème c'est que voilà quoi, vraiment les 2 mois, je les ai sentis passer sur toutes les séries au fait.
Ah bah oui, voilà, c'est le problème de cette publication de 2 mois en 2 mois.
Là vraiment c'est difficile quoi de s'y remettre, j'ai l'impression.
Et bah, la différence, enfin, il y a quand même un avantage à les lire en VF, c'est que Panini fait un peu de récap,
Oui,
en
c'est
général.
vrai.
C'est vrai que par exemple sur Marvel Universe, qui sort lui aussi tous les 2 mois, ça me gêne moins, puisque dans les numéros Marvel US, on a toujours une page de récap qui raconte un peu ce qui s'est passé. Sur les numéros VO de chez DC, il n'y a aucun récap. Donc voilà, c'est d'autant plus dur d'arriver à s'en remettre dedans.
Ouais. Et d'ailleurs, je disais que JXA va disparaître, mais JLA aussi. Hein. Je pense qu'on n'aura pas le run de Robinson.
Je crois qu'il veut laisser sauter un passage.
D'accord. Parce que grosso modo, le magazine se composera de dans les prochains mois de Blackest Night, bien sûr, de Green Lantern toujours, et de Flash Rebirth aussi.
Je sais plus, parce que je crois que je me demande si Flash Rebirth voulait pas le sortir en hors série.
Bah autant pour moi alors. Alors
Je
bon,
ne sais plus, il faudrait vérifier, je ne sais plus du tout, parce que les choses changent avec Panini des fois, et du coup, on
Non mais
rate une info et
tu as sans doute raison, tu as sans doute raison.
Ah bah
En fait,
là, honnêtement, c'est vraiment le flou. Bon, de toute façon, on verra bien.
oui, on verra bien. Mais malheureusement, donc c'est ce que je disais dans les commentaires. Je pense que des séries comme Justice League, Generation Lost, je pense pas qu'on les verra un jour en français, malheureusement.
Peut-être pas plus mal.
Bah,
Ah non,
pourquoi?
Generation Lost, pardon, excuse-moi, je pensais
Ah, oui, non.
à Cry
Generation
for
Lost,
Justice.
excellent.
Non, je pensais à Cry for Justice,
Ah non,
excuse-moi.
non, non, Generation Lost, Generation
Ah oui, non,
Lost.
Generation Lost, oui, mais c'est autre
À mon
chose.
avis, ils vont juste peut-être nous faire Brightest Day au format Trinity, tu vois.
Et encore, le problème notamment avec Generation Lost, c'est que la plupart des personnages ne sont pas connus en France, donc voilà. J'ai des gros doutes sur la publication en français, même si c'est très très bon.
En français, on avait juste eu le prélude à Infinite Crisis où on voyait effectivement Blue Beetle, Booster Gold, etc., quoi.
Ah, mais des personnages comme Booster Gold, comme Ice, même comme Maxwell Lord, sont pas les personnages les plus connus en France. Hein.
Oui, c'est clair et net. Ouais. Donc, bah, TPB, hein, parce que c'est vraiment une excellente série. Donc, mais bon, on n'y est pas encore, on verra.
Oui, là il nous reste encore du temps avant tout ça. Bien, bah on va passer à la suite. On va aller faire un petit tour du côté de chez Marvel et de tous les hors-séries qui sont parus ce mois-ci. S'il y en a mine de rien, 3 quand même, 4 même. Et on passe donc au Marvel Universe hors-série numéro 7 avec la mini-série The Torch. On a les quatre premiers épisodes de la série, enfin de la mini, puisque c'est une mini en 8. Hein. Scénario Alex Ross et Mike Kirey, et au dessin, on a Patrick Birkenkotter, que je ne connaissais pas du tout avant cette mini-série.
Moi non plus, mais les dessins sont pas mauvais, j'ai trouvé.
Non, ça va, bof. C'est tout à fait dans l'esprit des séries Alex Ross, hein, d'ailleurs. Enfin, ça sent bien sa patte, hein. C'est pas mal placé dans le passé. C'est un rythme assez lent. Ça m'a pas mal fait penser à Project Superpowers dans la façon d'être.
Ah, totalement, oui, totalement. Mais en fait, c'est vraiment la suite de la série Avengers Invaders, où en fait, on voyait les Avengers, et puis notamment, je crois, les Dark Avengers face aux Invaders, revenus dans notre temps, dans notre époque. Mm-hmm. Et alors, j'ai pas lu la fin de cette série, malheureusement, donc...
J'ai pas lu la série tout court.
Voilà, moi j'ai lu que la première partie, parce que justement, ça fait pas partie de mes lectures, comment dire, les plus urgentes, vu que c'était aussi très 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 long comme rythme.
Ouais, c'était très très lent. C'était en 8 aussi, je crois.
Oui, c'est sorti dans 4 hors série.
Ah non, c'était en 12. Pardon, c'était en 12.
Oui, en 12. C'était sorti dans 4 hors série, donc voilà. Donc j'ai lu les deux premières parties, et donc bah visiblement, Taureau est resté à notre époque, quoi. Et là, on suit ses aventures, sachant qu'il va chercher, au fait, à retrouver son ancien partenaire, la Torche. Mais il ne sera pas tout seul à essayer de le ressusciter.
Non, puisqu'on a le Tinkerer, alors je sais plus sa traduction française. Je crois que c'est le Penseur Fou, un truc comme ça.
D'ailleurs, je pense à ça, Steve, d'un seul coup. C'était pas dans Captain America récemment que quelqu'un avait cherché à ressusciter la Torche ?
Si, si, et que Bucky essayait de l'empêcher.
D'accord, donc au fait, c'est quasiment le même pitch, quoi.
Oui, grosso modo, oui.
Sauf
que là, il n'y a pas de Captain America qui l'empêche.
Mais c'était la Torche ou c'était Taureau qu'ils essayaient de ressusciter dans Cap?
La Torche.
D'accord, ok. Donc, du coup, pour refaire le point là-dessus aussi vite fait, faut préciser que c'est Dynamite, hein, qui a les droits de ses anciens personnages Marvel, comme les Invaders, comme la Torche.
C'est une sorte de tandem, en fait, entre Dynamite et Marvel, où c'est publié sous le label Marvel. Pour tout ce qui est distribution, etc., au niveau de l'imprimerie, machin, et c'est fait avec des artistes, notamment, qui travaillent chez Dynamite.
Voilà, exactement. Comme ça fait une petite pub pour les deux.
C'est pour ça qu'on a Alex Ross, par exemple, qui travaille beaucoup chez Dynamite.
Voilà, tout à fait. Et donc, on retrouve pas mal de séries avec ces personnages Marvel, même si on voit le logo Dynamite, bah, en fait, c'est normal, quoi. Vas-y, résume si tu veux le début.
Voilà, le Thinkerer, donc, c'est le penseur fou, hein, son nom je crois en français.
Oui, exactement.
Est engagé par l'AIM pour construire une arme qui doit en fait détruire toute une ville, je crois, ou quelque chose comme ça.
Un truc normal de super vilain, quoi, en fait.
Voilà, et il tombe en fait sur Taureau. Ou plutôt Taureau tombe sur lui.
Oui,
c'est plutôt ça comme ça. Et il se retrouve enfermé par le Tinkerer qui décide d'exploiter un petit peu son passé, en tout cas avec Taureau, et décide d'aller ressusciter la Torche. Voilà, en faisant quelques expériences. Bah, je sais pas, bon...
En fait, le début est assez laborieux. Hein. Le début est assez laborieux et...
Tout est lent.
Oui, tout est lent, mais la deuxième partie est un peu plus intéressante, d'un point de vue scénario.
Bah, je sais pas, moi je trouve qu'il y a plein d'erreurs dans cette mini, ça me fatigue. Ça m'a fatigué en fait à la lecture, tellement je voyais de conneries racontées. Notamment déjà, ça commence très très mal, on a la vision, il est méconnaissable. C'est censé être la vision, mais alors le coloriste s'est chié dessus.
Je l'ai pas reconnu au fait, j'ai cru que c'était Martian, enfin, un espèce de clone de Martian Manhunter, je me fais, mais c'est qui ce personnage? Alors est-ce que c'est un personnage du Golden Age? Et au fait, apparemment non.
Non, apparemment c'est la vision, mais alors il a pas du tout la même tête que la vision classique. Je sais pas, le coloriste s'est vraiment raté là-dessus.
Oui, on a l'impression que les couleurs sont inversées.
Ben normalement Vision a le visage rouge, là il a le visage vert, les couleurs, enfin voilà, non ça va pas du tout quoi. Déjà donc ça, rien qu'une erreur comme ça, l'éditeur on sent qu'il fait n'importe quoi et ça passe pas.
Oui.
Il y a des choses intéressantes, notamment le fait d'aller voir Betty Brant au DB pour avoir des infos.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil.
Ça c'était pas mal vu.
On croise quand même quelques personnages Marvel. Alors tu disais qu'il y avait le Thinkerer, mais il y a aussi d'autres petits personnages comme ça qu'on croise aux alentours des pages, et qu'on reconnaît, hein, pas comme la vision.
Et puis bah on a bien sûr le classique, ultra méga classique, la baston entre Torche et Namor.
Oui, bah oui, c'était ça dont je te parlais. La deuxième partie est quand même un peu plus intéressante, puisque ça se termine sur une espèce de pseudo-conflit encore avec Atlantis.
Oui, non, enfin, moi, c'est le principe de faire encore une fois la torche contre Namor. Enfin, ça devient ridicule tellement c'est classique, en fait.
Oui. Mais en fait, voilà, c'est le problème avec les séries Dynamite en général et les séries comme Project Superpowers, c'est qu'ils te, au fait, ils te refont, tu vois, des trucs classiques de ces diverses séries, des scènes classiques, mais il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas vraiment de, comment dire, les personnages sont totalement, on a l'impression vides d'émotions, quoi, et de. On a l'impression limite que c'est comme dans un jeu vidéo, tu vois, ils te refont les mêmes trucs des années plus tard sans se poser de questions, tu vois. C'est, je sais pas. On peut pas dire que c'est une série comme Walking Dead où les personnages sont très travaillés, quoi.
Là aussi où j'ai vu une autre erreur qui m'a vraiment gêné, alors je vais être obligé de spoiler un petit peu pour ce passage-là, mais je peux pas passer à côté malheureusement. La torche tombe, la torche est ressuscitée et elle est contrôlée par le penseur fou qui lui a injecté un truc. Mais ce truc a tendance à se répandre un peu partout et va contaminer d'autres personnes comme Namor, comme les Atlantéens, etc. Alors, la torche tombe au fond de la mer et il fait moins 21 degrés, du coup, le composé qui faisait que le contrôle mental sur torche se disparaît en fait à moins 21 degrés. Namor, lui, est contaminé. Pendant la baston entre lui et la torche, il va au fond des mers, contamine les autres Atlantéens, mais il fait pas moins 21 degrés.
Oui, je sais, ouais.
Ça me paraît mais tellement pathétique.
Mais au fait, le problème, c'est que, voilà, aussi bien dans la narration que dans les relations entre les personnages, etc., on a l'impression que c'est un, enfin, on a l'impression de lire du Stan Lee, tu vois, à notre époque,
Ouais.
un petit peu.
Ouais. Et puis
Alors, je sais pas
bon.
si c'est la volonté de faire du old school, mais faire du old school même dans la narration, je trouve ça inutile, quoi.
Et puis même dans les idées quoi.
Oui, voilà, c'est vraiment,
Le prochain truc c'est quoi? C'est Bucky Cap, les Invaders qui sont reformés encore une fois. Ça me paraît prévisible quoi. Et je sais pas, je suis pas du tout accroché avec ce truc.
Ouais, non, moi non plus,
C'est
j'attends.
lent, c'est bon, enfin, voilà.
J'attends pas du tout la deuxième partie et honnêtement, bah voilà quoi. Donc on le fait pas d'habitude sur Comic City, mais là ça pourrait être un pass.
Ah oui, non, mais clairement, sauf si vous avez adoré Avengers Invaders, à ce moment-là, allez-y, ça devrait vous plaire, quoi. Mais dans ce cas-là, moi,
Oh,
enfin, pas
j'ai
dans ce
préféré
cas-là.
Avengers Invaders personnellement. Enfin, de ce que j'en ai lu en tout cas. Je
Ah
trouvais
oui.
ça même plus passionnant que ça, quoi.
Moi, je pense que si les gens n'ont pas aimé Avengers Invaders, en tout cas la façon de le faire, la façon dont c'est raconté, etc., là, vu que ce sont les mêmes personnes, au scénario, c'est même pas la peine, quoi.
Non, Alex Ross a fait mieux quand même.
Oui, c'est clair. Donc on va pas rester là-dessus plus longtemps, hein, pas grand-chose de plus à en dire. Hein.
Et on reste quand même dans le Captain America et dans l'ancien.
Oui, on passe maintenant au Marvel Icons hors série numéro 17, avec le début de Captain America Reborn. Ce sont les trois premières parties plus le prologue de quelques pages. Au scénario, Ed Brubaker, au dessin, Brian Hitch et Butch Guice. Bon, je te laisse le résumé, tiens.
Oh bah, merci. Donc Sharon Carter qui s'est aperçue récemment que peut-être Captain America n'était pas mort, puisque elle a eu des flashbacks au fait où elle s'est rappelée que la balle au fait qui avait tué Captain America était une espèce de truc trafiqué au fait.
On peut dire ça comme ça, ouais.
Oui, voilà. Et surtout elle a eu des flashbacks au fait de sa détention lorsqu'elle avait été faite prisonnière par Crâne Rouge. Durant lesquels, au fait, elle s'est rappelée que Crâne Rouge et Arnim Zola parlaient de récupérer Captain America dans le temps. Donc voilà, donc ça lui a mis la puce à l'oreille et elle retrouve au fait tous les anciens comparses de Captain America, à savoir le Faucon, à savoir Bucky bien sûr, enfin le nouveau Captain America, la Veuve Noire, etc. Et tous décident d'essayer de retrouver Captain America qui serait donc apparemment perdu dans le temps. Alors de prime abord, comme ça, l'explication est un peu moisie. Je sais pas ce que t'en penses, puisque enfin, on n'a pas tous les tenants et aboutissants du truc, mais comment ça marche cette histoire? Comment a-t-il pu se retrouver
C'est
perdu
Code
dans le
Quantum en fait.
temps?
C'est Code Quantum. C'est-à-dire
Ah oui.
qu'il saute dans le temps comme ça, de passage en passage, et il
Ah bah
revit
alors
certaines
c'est.
scènes.
Oui, ou c'est Lost saison 5, hein, parce que Lost saison 5, c'est exactement ça. Ou c'est Sliders, tu vois, les mondes parallèles un petit peu
Mais t'as
aussi.
fini de me spoiler Lost, toi.
Mais c'est tellement mauvais que de toute façon, je te le déconseille, hein.
Non, c'est une blague, je m'en fous.
Les quatre, non mais les quatre premières saisons à la rigueur, tu peux te les mater, mais arrête là, quoi. Donc voilà, donc c'est du. Bah, voilà, l'explication, j'espère on en saura un peu plus, parce que là, je comprends pas comment c'est possible. Alors en plus, ça fait furieusement penser à ce qui se passe de l'autre côté avec Batman. Et autant dans Batman, on comprend, puisque c'est Darkseid qui l'y envoie, en fait, autant là. Donc bon. On a déjà vu, au fait, je pense, durant le run de Mark Waid, des épisodes où Crâne Rouge affrontait Captain America à diverses époques. Donc, sans doute, c'est une espèce de machine créée par Arnim Zola et Crâne Rouge, au fait, pour l'envoyer dans le temps et ensuite aller le récupérer. Mais, en gros, au fait, Captain America Reborn, pour résumer ça vite fait, c'est tout le monde qui part à la recherche de Captain America et c'est la course à Captain America, quoi, au fait, en gros. C'est-à-dire que Norman Osborn se rend compte que Crâne Rouge est à la recherche de Captain America, donc il va aussi partir à la recherche de Captain America avec ses Thunderbolts.
Et les Dark Avengers.
Et ses Dark Avengers, bien sûr,
D'ailleurs,
merci.
c'est pour moi l'idée la plus intelligente, c'est d'avoir mêlé le truc un petit peu avec le Dark Reign.
Ah oui, bah oui, il
C'est
fallait
pour
de
moi
toute
la
façon.
chose la plus intelligente de cette mini, qui m'a honnêtement pas du tout emballé.
Enfin bon, on a lu les trois premières parties, il faut voir ce que ça donne par la suite. Et donc, bah évidemment, tous les proches de Captain America essayent aussi de le retrouver. Alors bon, pour le moment, le seul qui voyage dans le temps, c'est Cap, hein, puisqu'on le voit passer donc d'époque en époque. Donc au début, il est sur les plages de Normandie, et puis ensuite, il va se retrouver à affronter le Baron Zemo avec Bucky. Au fait, on revit encore ces scènes qu'on a revues 150
On
fois.
le voit aussi resubir la transformation en Super Soldier. On le revoit aussi assister à la mort de sa mère. Voilà. Bah, je pense que ce côté-là, c'est un petit moyen pour Brubaker de laisser libre cours à Brian Hitch et à Butch Guys de dessiner ce qu'ils ont envie, quoi.
Oui, voilà, les grands
Comme ça, ils
moments
ont
de
pu
la carrière.
dessiner de la Seconde Guerre mondiale, ils ont pu dessiner des batailles dans l'espace, ils ont pu dessiner des scènes plus dramatiques, la transformation de Cap en Super Soldier, qui est un moment ultra
Classique.
classique dans la continuité Marvel, voilà, ils auront tous pu dessiner un petit peu tous ces moments-là et ils se font plaisir, quoi.
Mais moi, en fait, ce qui m'a déçu, par exemple, dans ces voyages dans le temps, c'est qu'il ne semble rien pouvoir contrôler. Donc, au fait, effectivement, l'intérêt, c'est juste pour les dessinateurs de faire revivre des scènes classiques, mais Cap, lui, semble assister à tout ça et ne pas pouvoir modifier quoi que ce soit, en
Ben
fait.
si, il pourrait, mais il sait très bien que s'il modifie quelque chose, il peut changer complètement le futur.
Oui, mais ce
Donc
serait
c'est pour
plus
ça qu'il
intéressant pour nous
décide.
lecteurs.
Ouais, mais c'est pour ça qu'il décide de ne rien changer, parce
Oui,
qu'il veut
voilà,
savoir ce qui
mais
va se passer s'il change quelque chose.
tout à fait. Mais par contre, ce serait plus intéressant pour nous lecteurs qu'il change quelque chose, parce que là, comme tu dis, on s'ennuie, quoi, un petit peu, même beaucoup.
Pas qu'un peu. Bon, il y a des trucs qui m'ont fait vraiment, vraiment marrer. Du genre Black Widow capturé pour la quatrième fois par Norman Osborn, et il la laisse partir une autre fois de
Oui,
plus.
oui, oui.
Oh, mais
Oui.
voilà,
Alors là
ça
c'est
devient
pareil, c'est
pathétique, quoi.
un problème d'éditeur, c'est-à-dire que apparemment on n'a pas dit à Brubaker qu'il y avait déjà eu ça dans Thunderbolts, qu'il y avait déjà eu ça dans Dark Avengers, etc.
Bah, elle est tout le temps capturée,
Ou dans Iron Man aussi, d'ailleurs, oui.
elle.
J'ai l'oublié.
Mais, voilà, je veux dire, c'est censé être une espionne, mais alors putain, qu'est-ce qu'elle est mauvaise, quoi.
Oui, c'est vrai.
Elle se fait tout le
Oui,
temps
c'est vrai.
choper, c'est naze.
Oui, en plus dans les mêmes mois, au fait, dans
Ah
le
ouais, non,
même
mais.
laps de temps.
C'est terrible. Je sais pas, Norman Osborn, il devrait la flinguer, comme ça, il serait tranquille,
Elle aime ça, je pense. Elle aime bien se faire. Oula, j'allais dire.
quoi.
Faut que je trouve un autre mot. Se faire enlever, on va dire, par Norman Osborn, visiblement. Et non pas se faire prendre, pour ne pas le dire.
Ouais, ou se faire attraper, comme tu veux.
Se
T'as le
faire
choix des
attraper.
mots.
Non, mais enfin, je sais pas. C'est une bizarrerie parce que effectivement, elle se retrouve toujours dans les géoles de Norman Osborn. Alors je sais pas, elle est peut-être attirée par sa coupe. Je pense que ça doit être ça.
Ils ont pas les mêmes en Russie, c'est tellement.
Voilà. Bon bah en tout cas, les trois premières parties, enfin c'est un petit peu ennuyant pour du Brubaker, un petit peu ennuyeux même d'ailleurs pour du Brubaker, mais
Non, mais c'est à l'image de ce qu'il fait sur Cap, moi je trouve.
ouais voilà, c'est enfin on a eu tellement des épisodes ronflants ces derniers temps, hein, il se passait plus grand-chose, que là le fait de voir les Dark Avengers rentrer dans la course, enfin on sent qu'on va avoir une grosse baston et qu'il va se passer quand même des choses, donc. C'est pas pour nous déplaire, mais faut voir, hein, faut voir la résolution.
Moi, honnêtement, après la lecture de ces trois premiers épisodes, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est et dire qu'il reste encore trois épisodes qui sont en plus des double size. Va
Oui,
falloir
alors
encore s'en
est-ce qu'on
taper
va les
trois
avoir,
longs,
on va les
quoi.
avoir tous dans le même truc là, comme cette fois-ci aussi.
Normalement, oui.
D'accord.
D'ici 2 mois, je crois. 2 mois ou 3 mois, je sais plus.
Oui, ils ont alterné avec The List, au fait, je pense. C'est-à-dire qu'on a The List, la suite, au mois d'août, et on a Captain America Reborn, la suite, en septembre.
Je sais pas si c'est en septembre ou en octobre, je sais plus.
Je crois que c'est septembre.
D'accord. Bon.
Mais
Bah, honnêtement, moi, ça me passionne pas du tout, hein. Franchement, pour moi, là, c'est pareil. Ça, c'est une autre des choses pas bonnes ce mois-ci, quoi. Après, chacun est libre d'aimer, quoi. Je sais que moi, ça m'a pas du tout emballé, quoi.
bah, en tout cas, en même temps, vaut mieux le prendre quand même pour parce que sinon il manquerait quand même un morceau important pour ceux qui suivent la série Captain America, quoi. C'est quand même important d'avoir Captain America Reborn. Et en tout cas de le lire au moins pour se faire son opinion là-dessus, quoi. Parce que de Captain America Reborn va ensuite dépendre la suite du titre.
À savoir que la série Captain America s'était arrêtée pendant la publication de Reborn aux États-Unis.
Voilà, oui. C'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup d'épisodes depuis, quoi.
On n'est pas prêt d'en avoir encore tout de suite, je crois.
Et un petit peu en hiatus, non? Oui,
Ouais,
voilà.
c'est ça, ils l'ont foutu en hiatus le temps que Reborn sorte, quoi.
Voilà.
Bien, bah on va pas passer là-dessus, hein, on va passer à la suite. Et c'est encore un hors-série, hein. Marvel Heroes Extra numéro 3, et ce sont les épisodes Incredible Hulk 601 à 605. Alors, ce ne sont pas les épisodes entiers, ce sont juste la première histoire des épisodes, puisque chaque épisode d'Incredible Hulk fait à peu près 40 pages, et on a aussi une histoire sur Savage She-Hulk.
Ouais, the all new Savage She-Hulk.
Merci de préciser, parce que c'est vrai en plus, il faut absolument
Ouais,
préciser.
non mais c'est. Enfin, voilà. On les a pas, mais je sais pas si on rate vraiment quelque chose.
Je sais pas, j'ai pas pris le temps de les lire parce que j'étais un peu à la bourre. Donc non, j'ai vraiment lu que Incredible Hulk, et d'ailleurs, bonne surprise.
Oui, plutôt.
Au scénario, on a Greg Pak. Au dessin, Ariel Olivetti, accompagné de Giuseppe Camuncoli et Cam Smith à l'ancrage pour l'épisode 3 et 4, et de Paul Pelletier et Danny Mickey à l'ancrage pour le numéro 5. Voilà, donc Bruce Banner n'est plus Hulk.
Voilà, depuis le Incredible Hulk 600, puisqu'il faut préciser qu'au fait, on n'avait plus la série Incredible Hulk, et pour cause, puisque c'était Incredible Hercule,
Oui, qui avait
depuis
pris
un
la
certain
place.
nombre de temps. Hercule a eu sa propre série ensuite, je crois.
Non, non, c'est resté Incredible Hercule.
D'accord. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Enfin, c'est resté Incredible Hercule, mais Incredible Hulk a repris sa numérotation, en fait, au 600, et donc est revenu au 600. On a eu le 600 dans Marvel Heroes il y a quelques temps, où Bruce Banner perdait ses pouvoirs. Et donc, il y avait une série Scar, Son of the Hulk, qui reste inédite en français, qui
Qui
racontait au fait
manque.
les aventures de Scar, le fils de Hulk, et maintenant, eh bien, il est arrivé sur Terre. Et
Voilà,
donc,
et
on assiste.
cette série nous manque d'ailleurs, hein, pour arriver à comprendre. Parce que là, au début, on est un petit peu lâché là-dedans. Hulk et Scar se sont déjà bastonnés, et on n'a rien vu de tout ça.
Voilà, on n'a rien vu, mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que bah maintenant, Bruce Banner rencontre Scar, rencontre son fils, et Scar veut buter Hulk.
Et veut tuer son père, qui
Il veut tuer son père puisqu'il le reproche de l'avoir abandonné lâchement alors que c'est pas exactement ce qui s'est passé.
ainsi qu'être responsable de la mort de sa mère.
Voilà. Et donc Bruce Banner le prend en fait sous son aile en lui faisant passer, on va dire, toute une série de tests.
Voilà, il l'entraîne pour le moment où il reviendra Hulk, car il est persuadé qu'à un moment ou un autre, Hulk reviendra.
Et franchement, ces épisodes sont très très bons.
Ah, c'est surtout énormément drôle.
Oui, voilà, sont très comiques.
C'est ça qui
Alors,
fait la force du truc.
Greg Pak, faut préciser aussi que c'est lui qui avait écrit toute la saga pas World War Hulk justement. Si, World War Hulk.
Planète Hulk surtout.
Mais surtout, voilà, c'est ce que je voulais dire, Planet Hulk déjà. Et donc, on le voyait plus trop en français du coup, et là, il revient avec Incredible Hulk. Et ouais, ces épisodes sont vraiment très très comiques, puisqu'on assiste au fait à des espèces de limite des clichés de la série Hulk, c'est-à-dire qu'on assiste à la bataille entre Scar par exemple et le Juggernaut.
Ça qui est une des épreuves pour de Bruce Banner pour entraîner Scar justement, parce que il lui dit clairement, si tu affrontes Hulk aujourd'hui, tu te fais tuer.
Voilà, ouais. Et ensuite, il le fait affronter aussi le fils de Wolverine, Deacon. Mais
Qui est
en
pour moi
plus,
le meilleur épisode, hein. De les
oui,
cinq, c'est le meilleur épisode.
le plus drôle aussi, puisque Wolverine est aussi présent, et il y a une espèce de, comment dire, de rivalité aussi, enfin, entre Bruce Banner, je veux dire, et Wolverine, qui est palpable, et c'est vraiment très drôle, en fait, de les
Il y a
voir.
beaucoup de choses qui s'entrecroisent, c'est-à-dire qu'on a la rivalité Hulk, Bruce Banner, Wolverine, mais aussi le fait que tous les deux sont pères de leurs enfants qui sont face à face, les
Voilà.
deux enfants qui veulent tous les deux tuer leur propre père, enfin, tout s'entrecroise et ça donne quelque chose vraiment avec un humour très subtil mais très très bien fait.
Oui, c'est vraiment très très marrant. C'est vraiment la bonne surprise de cette fin de mois, on va dire. Enfin, c'est pas la fin de mois d'ailleurs, puisque je crois que le hors-série est déjà sorti. Je sais plus s'il était sorti en première partie, puisque
Je sais plus.
le Capricorn, au fait, était sorti en première partie. On l'avait gardé pour en parler maintenant.
Je crois qu'il est sorti le 15.
Parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Mais alors voilà, ouais, peut-être. En tout cas, bonne surprise ce mois-ci, puisque je n'attendais rien du tout de cette série. Et c'est vraiment très très plaisant, très très bon. Alors bon, il y a aussi dans la dernière partie, par exemple, l'homme taupe qui fait son retour.
Ça, c'est un épisode que j'ai trouvé un peu moins intéressant, personnellement.
Un peu moins intéressant parce qu'effectivement, passer la surprise, ça commence à traîner un peu en longueur. Faudrait peut-être passer un petit peu à autre chose. Mais voilà, ça reste quand même sympathique. Il y a des gags, il y a aussi les quatre fantastiques qui font une apparition. Et puis les dessins d'Olivetti, enfin je sais pas si tu aimes d'habitude sur câble,
Mais
mais
je le trouve plus à l'aise là sur Hulk.
ouais, mais moi j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. J'aime bien son Juggernaut, la manière dont il dessine Scar. Alors Scar, bon, clairement, hein, c'est le mix entre Conan et Hulk, quoi.
Mais j'adore beaucoup le nombre de références qu'ils lui ont fait en l'appelant Conan et il ne comprend pas qui c'est.
Ah c'est énorme, il y a aussi la scène,
Ils
j'allais
vont dans un
oublier.
comic shop.
Où ils vont dans un comic shop et lui montrent la couverture de Conan et le mec a pas l'air de comprendre, tu sais, de quoi il s'agit. Il lui fait ouais, ok, l'air de dire ok, bon, c'est bon, t'as fait ta petite remarque. Tu sais, il en a rien à faire, mais il se rend pas compte quoi, en fait, à quel point il ressemble vraiment à Conan en plus.
Il y a des choses qui m'ont un petit peu paru bizarres, notamment la façon dont Banner est traité par Reed et puis les autres. Il le traite vraiment comme
Il a
une
failli.
merde, quoi.
Oui, mais il a failli quand même détruire la planète entière durant World War Hulk, et depuis,
Oui, mais
il était
enfin,
enfermé pendant longtemps, donc en fait, il s'est échappé, de toute
la faute
façon.
à qui? Qui l'a envoyé dans l'espace?
Oui, bien
Voilà.
sûr.
Donc,
Ah oui.
je sais pas.
Oui, mais enfin, bon, ça, c'est un petit peu le même le problème de la Civil War, la faute à qui a eu la Civil War, la faute à Tony Stark, la faute à Reed Richards, etc. Mais au bout du compte, voilà, quoi, on oublie tout et on fait comme si il s'était rien passé, quoi.
Disons que je les trouve très méprisants à son égard. Et je sais pas, ça m'a un peu gêné en fait.
Ouais, bah en même temps il y a toujours une espèce de rivalité comme ça un petit peu malsaine entre les savants de l'univers Marvel, quoi. Ils veulent tous être l'intelligence suprême, on va dire. Ou le savant suprême, tu
Ouais.
vois. Maintenant on sait que c'est Hank Pym, donc ils ont plus rien à dire, mais voilà, ils veulent tous être le mec qui va, comment dire, trouver la solution à la. En fait,
À tout.
à tout, quoi. Oui, c'est ça, oui, à tout, quoi. Sauver le monde, quoi. Qui va réussir à sauver le monde? Et bon, bah pour le moment, Bruce Banner, c'est vrai qu'il est un petit peu en bas du classement, puisque il a bien failli plutôt le détruire récemment. Donc oui, il y a une espèce de tension palpable entre Reed Richards et Bruce Banner, mais moi ça m'a pas tellement gêné,
Oui,
tu
mais
vois.
alors par contre, enfin, le pire pour moi, c'est que techniquement, c'est pas vraiment de sa faute. Je veux dire, quand il est Hulk, il contrôle pas. Donc c'est pas vraiment la faute à Banner.
Ouais, mais là, d'un autre côté, on a l'impression qu'il a une espèce de volonté de vouloir redevenir Banner, de vouloir redevenir Hulk plutôt.
Ben, il le dit clairement, il sait qu'à chaque fois qu'il a réussi à se débarrasser d'Hulk, Hulk est toujours revenu. Donc il sait pertinemment que Hulk va revenir à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'il entraîne son fils. Et finalement, il cherche à se suicider, puisqu'il demande qu'une chose, c'est que Scar bute Hulk.
Oui.
Sachant très bien que si Hulk meurt, il va mourir aussi.
Mais enfin, il fait quand même des trucs un petit peu, tu vois, un petit peu, comment dire, qui ressemble pas à un super-héros. Par exemple, il organise quand même des bastons entre son fils, du coup, et Juggernaut, etc.
Avec une fin pour le Juggernaut qui est quand même énorme.
Oui. Oui. Et non, enfin, il fait des trucs un petit peu contestables. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, un petit peu contestable. Et bon, voilà, il pourrait créer des dégâts importants, voire des pertes, enfin, voire créer des victimes, quoi. Faire des victimes. Et il semble assez détaché de ça, quoi, en fait. Bruce Banner.
Ouais. Mais je sais pas, pourtant, la rencontre avec le Juggernaut, quand il l'a prévu, c'était qu'avec des robots.
Oui, au fait, on s'en rend compte. Au début, d'ailleurs, on se dit même, putain, il est gonflé, qu'est-ce qu'il fait et tout. Puis au fait, on se rend compte que c'est des robots. Ouais, mais enfin bon, je sais pas, quoi, tu vois, c'est un petit peu.
Mais dans les problèmes quand même qu'il y a dans ces épisodes-là, bah, en tout cas pour nous en France, on a vraiment du mal à comprendre qui est Scar et surtout comment marchent ses pouvoirs.
Bon, il y a toujours, comme tu dis, hein, dans toutes les publications Panini en français, il y a toujours un petit pitch, un petit résumé. D'ailleurs, à la fin, ils font bien, ils expliquent bien en fait toutes les séries qu'il y a eu récemment, ce qu'on a eu en France, ce qu'on n'a pas eu en France. Donc bon, c'est toujours utile pour y voir plus clair. Et moi, ça m'a pas, j'ai pas lu du tout Scar, Son
Ben,
of
moi
the
non
Hulk.
plus.
Ça m'a pas tellement dérangé, tu vois.
Ben, pour comprendre comment marchent les pouvoirs, il faut bien attendre 2-3 numéros pour arriver à comprendre notamment sa transformation en pierre qui est pas toujours évidente à comprendre comment il la maîtrise. Je sais pas, c'est assez. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un trou, quoi. Et puis on a le petit souci aussi avec le 604, où on apprend qu'il y a eu un combat, en tout cas dans le résumé américain, et on en reparle dans l'épisode, qu'il y a eu un combat contre Miss Marvel. Et finalement, on se dit, mais c'est un combat qui a jamais eu lieu, et finalement c'est quelque chose qui a eu lieu dans The List, qu'on
Ah oui.
aura le mois prochain du coup.
D'accord, ok.
Donc encore un petit
Oui.
problème là. Par rapport à la publication Panini, bon là, bon, c'est pas non plus super dérangeant quoi.
Ouais, ça ne spoile pas grand-chose, quoi. D'ailleurs, je l'avais même pas remarqué. Mais ok, ouais, enfin, de toute façon.
Une autre des scènes aussi que j'ai trouvé très drôle, c'est la scène de football américain entre tous les gens qui ont été touchés par les pouvoirs gamma.
Ah oui, et puis en plus, oui, faut dire qu'il y a aussi, au fait. Petit à petit, des pions se mettent en place pour l'événement Fall of the Hulk, en fait, puisqu'on a le retour d'un ennemi bien connu.
Voilà, qui commencera dans le prochain épisode de Incredible Hulk. Donc voilà, non, c'est vraiment une très très bonne surprise ce truc.
Oui,
Je
oui,
m'attendais
oui.
vraiment à quelque chose de très très bof, voire même totalement pourri, et je suis resté sur le cul parce que je me suis vraiment marré.
Ouais. Non, c'est très drôle, c'est très frais, on va dire. Puis voilà, un nouveau personnage qu'on découvre seulement maintenant en français. Mais qui est amené à jouer au moins un petit rôle, voire un grand rôle dans les séries Hulk. D'ailleurs, est-ce qu'il va survivre longtemps ce personnage-là? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. Donc, bah, jetez-vous dessus. C'est vraiment le truc de cette fournée qui a ne pas raté, quoi.
Ouais, voilà, c'est vrai que c'est la meilleure surprise de notre podcast, en tout cas, enfin, de ce qu'on chronique aujourd'hui.
Oui.
Sans aucun problème.
Et d'ailleurs, on repart vers un truc.
Oui, mais là, on va retourner pour notre dernière review vers DC et à la librairie avec le Batman Crimson Mist. L'album a été traduit Brume Rouge, je crois.
Oui, Crimson Mist.
Donc, de toute façon, traduction littérale. Quoique, non, il aurait pu dire brume écarlate, qui aurait été vraiment littéral. Donc, bah, c'est la suite du triptyque Batman Red Rain, Batman Bloodstorm, et donc voici la dernière partie, qui date de 98.
99, il me semble. Tiens, c'est bizarre.
Moi, j'avais vu 98. Oh, remarque, on est plus un an près.
Ouais.
La première datée de Red Rain datée de 91 et Bloodstorm datée de 94.
Ouais, bah ça se sent.
Oui, bah oui, il y a un petit côté vieillot. Le scénario est de Doug Munch, les dessins sont de Kelly Jones et l'ancrage est de John Betty. Donc la même équipe qu'on avait sur les deux premiers volumes.
Exactement, ouais, c'est vraiment une trilogie. Mais par contre, la troisième partie, bah voilà, je te laisse
Bah
commencer.
c'est un final en apothéose. Et Batman est tombé totalement dans la folie
Ouais,
après
alors
avoir
là,
été.
totalement, quoi. Là, au fait, c'est même Batman l'ennemi à abattre, quoi, en fait.
Bah, l'est-il vraiment? Je sais pas. Je sais pas, car il conserve quand même une certaine partie d'humanité, mais bah, une très légère partie. Le fait simplement qu'il se pose la question déjà suis-je vraiment un monstre? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Ça montre qu'il garde quand même une certaine partie de ce qu'il était avant.
Ouais, de son humanité, quoi.
Il sait que
D'ailleurs.
s'il continue dans cette voie, il va devenir fou. Et d'ailleurs, c'est le sang du Joker qu'il a bu dans le deuxième tome
Voilà, oui.
qui l'a complètement rendu fou, puisqu'après qu'il ait été empalé à la fin du deuxième, il est resté pendant un long moment dans son cercueil. Et du coup, son corps n'a pas pu faire autrement que pomper le sang du Joker qu'il avait absorbé juste avant de mourir.
Et
Et
du
donc il a
coup,
été
là,
corrompu.
voilà. Mais est-ce que tu as aimé, toi, déjà?
Ouais, je trouve ça pas mal.
Ah, tu trouves ça pas mal, d'accord.
Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que Doug Munch ait totalement clôturé son histoire avec ce troisième volume et qu'il n'y aura plus de suite.
Oui, ça c'est clair et net. C'est
Et
clair et net.
voilà, parce que je pense que je sais pas si c'est vraiment sa volonté d'avoir écrit le deuxième tome peut-être, quoi qu'on lui a sûrement demandé chez DC, ça s'est tellement bien vendu, vas-y, fais-en un deuxième. Donc du coup, là, je pense que pour éviter qu'on lui en demande trop et qu'on lui redemande tout le temps des histoires dans ce monde-là qui a énormément bien marché, a écrit un troisième tome pour clôturer la chose. Et je trouve que c'est une bonne idée de sa part.
Oui, c'est un petit peu ce qu'a fait Frank Miller avec Batman The Dark Knight, et puis ensuite The Dark Knight Strikes Again. Alors, je sais plus, non, c'était Strikes Again?
C'était Strikes Again.
Et puis le All-Star Batman qui n'est pas fini et qui finalement ne sera pas fini, mais on va avoir autre chose à la place. Mais enfin bon, voilà quoi, c'est une espèce de trilogie dans un monde parallèle.
Bah c'est en fait c'est
autour
le premier
de Batman.
C'est le premier Elseworld. Red Rain était le premier Elseworld.
Ah d'accord, ok, ouais, c'est peut-être pour ça alors que ça avait
Même
si
à
bien
l'époque,
fonctionné.
à l'époque il ne s'appelait pas Elseworld encore.
Enfin, il y avait quand même eu du Batman. Comment ça s'appelait cette série? Batman The Dark Knight, tout simplement, non? C'était pas la série avec que des histoires un petit peu parallèles au fait, qui rentraient pas forcément dans
Legends
la
of the Dark
continuité.
Knight doit dater de 89. Mais la gamme Elseworld n'existait pas encore.
D'accord, ok. Mais enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que les histoires aussi de Legend of the Dark Knight ne rentraient pas forcément aussi dans la continuité.
Bah, elles étaient placées plutôt avant, en fait, dans un moment indéterminé, quoi. Elles se sont
Ouais.
passées, mais pas en même temps que le reste des autres séries, quoi.
D'accord. Et bah, du coup, on a effectivement Batman qui revient en vampire. On a pas mal d'ennemis. On retrouve bien le style aussi bien d'écriture de Doug Munch que de le style graphique de
De Kevin
Chuck
Jones.
Eastman. Voilà.
Que j'adore. Que j'adore. Enfin, ça pourrait pas correspondre mieux à quelqu'un d'autre.
Ouais, non, c'est vraiment le Batman vampire, quoi, c'est lui, quoi.
Mais son style gothique, vraiment, je trouve, va à merveille avec Batman. Moi, j'avais adoré l'époque où il était au dessin sur Batman, la série régulière. Et voilà, le revoir là, encore une fois, me plaît beaucoup. J'ai toujours pas eu le temps de lire Gotham After Midnight, mais il faut vraiment que je le lise, ne serait-ce
Et
que pour
voilà,
les
oui.
dessins.
J'allais en parler de Gotham After Midnight, et effectivement, j'en avais parlé l'autre fois, mais c'est vrai qu'autant le scénario était pas super transcendant, mais il y avait quand même une ambiance et une certaine touche d'une époque de Batman qui ressort de ça, que c'est pas non plus désagréable. Surtout pour ceux qui, comme toi, ont apprécié cette période
Ah ouais, moi
avec ces dessins-là.
j'adore. Franchement, j'adore.
Mais faut préciser aussi que c'est quand même très 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 gore.
Ah, c'est super violent, ouais.
C'est
Vraiment.
très violent, ouais. Et puis alors
Bah,
la fin.
les ennemis de Batman tombent les uns après les autres.
Oui. D'ailleurs.
Et d'une façon très, très visuelle.
Oui. Non, et puis la fin est très hardcore. Aussi bien visuellement que psychologiquement quand même. Bah moi je enfin j'ai est-ce que j'ai été aussi emballé que le alors faut préciser que j'ai pas lu la seconde partie. J'avoue, j'ai pas lu la seconde partie, donc à
Mais
titre de comparaison.
ce qui est très bien, c'est qu'on peut s'en passer, mine de rien.
Ouais.
On
Alors je
peut
sais.
lire cette troisième partie indépendamment.
Et
Ça, c'est
justement,
très fort.
j'allais te poser la question, quelle est la partie, à ton avis, qui est quand même la mieux? La première ou finalement pas forcément?
La première. La première parce que on découvre ce monde. Voilà, et puis pour le mythique combat entre Dracula et Batman, tout simplement. Mais même si les autres sont bien aussi, hein, il n'y a pas de souci. C'est, je sais pas, bon, la première, c'est voilà, c'est le début du concept, tout ça.
Et quel concept quand même,
Ouais,
puisque.
non, mais ouais, c'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée.
Moi, enfin, je te dis comme j'ai pas lu le second, c'est un petit peu difficile de juger parce que là on est quand même des années plus tard, pratiquement 10 ans après, quoi. Enfin, non, moins que ça. On va dire 8 ans après. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais disons que enfin voilà quoi, j'aimais plus de réserve. Le premier, c'est sûr que dans le contexte, etc. On était en 91, c'était révolutionnaire. Là, ça sent vraiment quand même la suite, parce qu'on réclamait une suite, quoi.
Bah ouais, donc t'étais content que ce soit la fin, quoi, au final.
Oh, mais enfin, j'ai pas détesté, quoi. Du coup, ça m'a même donné envie de lire le second, chose que j'aurais pas forcément fait après avoir lu le premier, puisque moi j'estimais que
Bah, le
voilà, le
premier
premier,
pouvait
c'était.
s'arrêter là, de toute façon.
Oui, voilà, c'est ça. J'estimais que le premier c'était le premier et que les suites, s'il y avait eu des suites, étaient pas forcément bonnes, justement, parce que c'était plus des travails de commande qu'autre chose. Mais là, avec la fin qu'il donne à cette série, bah, en fait, je pense que je sais pas quoi. J'hésite entre le. Je sais pas s'il l'a fait vraiment pour lui ou s'il l'a fait parce qu'on lui a demandé.
Bah, je sais pas trop, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, quoi qu'il arrive, on pourra plus jamais rien lui demander. Ça, c'est
Oui,
bien.
ça c'est clair et net.
Kelly Jones se permet aussi quelques, enfin je pense que c'est sous l'impulsion de Doug Munch, se permet de quelques petites variations sur certains personnages, comme il avait fait sur Catwoman dans l'épisode, enfin dans la deuxième tome, on va dire,
Ah
de cette
oui.
trilogie, avec le Riddler notamment,
Oui, c'est vrai, oui.
qui a une tête, mais alors à faire peur.
De toute façon, il tout fait peur. Même Batman. Enfin, Batman.
Oui, de toute façon, il est dans un état.
Oui, voilà quoi. C'est vraiment le. Non, c'est vraiment un comics. Au fait, pour les fans d'histoire d'horreur, là, franchement, c'est une bonne
Bah,
série.
de toute façon, Panini l'a publié dans la collection Darkseid.
C'est vrai, oui. J'avais même pas remarqué. Oui, t'as raison.
Et ça, voilà, ça correspond, hein, il n'y a pas de doute.
Alors, c'est dommage parce que c'est un peu trop, c'est un peu trop gore pour être apprécié par un jeune public, pour être conseillé à un jeune public, mais voilà quoi, c'est sympathique. Disons que bon, je pense pas que ça va traumatiser les moins de 16 ans non plus, mais je pense que bon, à partir de 12 ans, tu peux lire ça, tu penses?
Oh, bah avec ce qu'on voit aujourd'hui à la télé,
Ouais, et puis il y a les mangas aussi qui sont très violents.
oui.
Voilà, on fait vraiment vieux con, tu sais.
Voilà. Mais nous sommes des vieux cons, malheureusement.
Oui, voilà, c'est ça.
On
Ouais,
arrive à
voilà.
un âge où voilà.
Ouais, enfin, ça va. Si vous voulez savoir notre âge, référez-vous à la rubrique d'ailleurs pour nous connaître.
82 ans, il y a une erreur de typo.
Mais non, non. Mais enfin voilà. Donc, c'est pas, c'est particulier, disons. Voilà, c'est
Ouais, enfin,
particulier.
moi c'est une lecture que j'ai appréciée, quoi, franchement, notamment face à ce qu'on avait ce mois-ci.
Oui, non, c'est clair et net. Oui, c'est clair et net.
Peut-être
C'est
que
clair et net.
si on
Bah,
avait
si.
eu un mois un peu plus agréable, disons, au niveau des publications, j'aurais peut-être moins apprécié. C'est vrai que là,
Si vous êtes fan de monstres, de créatures horrifiques, si vous avez aimé Gotham After Midnight, et si vous appréciez le travail de Kelly Jones dans son ensemble, et bah allez-y, hein, jetez-vous
Ah,
dessus.
puis pour les références aussi au Dracula de la Hammer, notamment le fait que quand on enlève le pieu, hop, il revient à la vie,
Oui.
reste dans son cercueil pendant très longtemps. Gordon et Alfred qui ont un petit peu le rôle de Van Helsing et Jonathan
Tout à fait, ouais. Ouais.
Harker.
C'est vrai qu'il y a pas mal de.
D'ailleurs, la dédicace, je ne sais pas si elle y est en français, mais Doug Munch dédicacé son. Pas Doug Munch, pardon, Kelly Jones dédicacé le bouquin à Christopher Lee.
Ah, je sais pas.
Donc c'est voilà, on sent que Kelly Jones a été bercé avec tout ce genre de film de l'époque.
En tout cas, voilà, donc une saga qui clôture avec panache, on va dire, avec. Enfin, voilà, une fin assez spectaculaire, on va dire,
Oui, voilà.
à ce triptyque. Et voilà, on termine les news, enfin les news, n'importe quoi. On va enchaîner sur les reviews, bien entendu. Non, non, voilà, on termine les reviews de cette fournée là-dessus.
Petite fournée, hein, petite.
Bah, petite fournée, mais en même temps, on a dû même en garder du début de mois pour ce numéro-là, parce
Je
qu'il y avait tellement
dirais
peu de choses.
même petite qualité quand même.
Ouais, petite qualité. On n'a pas fait Jungle Girl.
Non, ni
Quel
le
dommage.
Spider-Man hors série.
Quel dommage, quel dommage. Je voulais pas te rappeler, je sais que tu voulais le faire et j'ai fait exprès de pas te le rappeler en te disant. Tu sais, je voulais dire à la fin, on n'a pas fait Jungle Girl, quel dommage. Ben voilà, on l'a pas fait. Donc franchement, quel dommage.
Moi, j'avais bien
Et
aimé le
le
premier tome.
Spider-Man, oui, le Spider-Man hors série que j'ai lu, j'étais le seul, d'ailleurs.
Oui, moi je l'ai pas lu. Pas le temps.
Qui est juste pour en toucher deux mots à la rigueur, le premier arc, enfin la première mini est sur Mister Négative et moyenne, on va dire. Juste, on en apprend un peu plus sur le personnage. Et la deuxième, qui est anti-Venom, est juste.
Attention aux
Voilà.
mots.
Est juste pas terrible, on va dire. Hein. Voilà. En
Ouais,
gros,
je
c'est
vois.
anti-Venom face au Punisher. Ça rappelle les très mauvais épisodes de Larry Hama sur Venom, quand Venom rencontrait le Punisher.
Mais non, Larry Hama est un génie, enfin.
Larry Hama est l'une des queues de cerises des années 90, je dirais. Voilà. Pour faire simple.
Lancerons pas de
Donc,
débat sur le sujet.
non,
Mais dans les
puisqu'on va.
commentaires, si vous voulez, vous pouvez.
Oui, d'ailleurs, on va parler de commentaires puisqu'on a reçu quelques petits mots.
Quelques mails, oui. Je prends donc les mails. Ouais, c'est
Donc
des mails un peu.
c'est pas un bruit fait pour faire genre, il prend vraiment les mails, on les imprime carrément, vous vous rendez compte?
Ça fait les mecs qui travaillent dans les années 90, c'est terrible. Tout d'abord, un mail de Vincent. Un mail de Vincent qui nous dit qu'il lit depuis plus de 2 ans du comics Marvel. Et c'est très bien. Continue, déjà.
Oui, enfin, lis même du DC si tu veux.
Et qu'il s'est tout de suite intéressé à la continuité, qui est un aspect si particulier qui caractérise cet univers.
Ouais.
Après diverses recherches sur le net, j'ai remarqué que pas mal de sites internet s'étaient tentés à classer chronologiquement ces milliers d'arcs de flashbacks, etc. Donc voilà, depuis qu'il a découvert Comic City, il s'étonne que nous n'y soyons pas plus penchés. Y aurait-il une explication particulière, ou est-ce que c'est trop vaste à traiter? Bah oui. La
Oui,
réponse est
enfin,
oui.
c'est-à-dire que si on devait faire un podcast spécial sur la continuité, alors en plus on serait obligé d'aborder non seulement la continuité de l'univers Marvel, mais aussi la continuité de l'univers DC quand même, pour être
Ah oui.
comment dire, exhaustif, et pour pas faire de jaloux.
C'est-à-dire moi. Moi, je serais le premier jaloux qu'on n'aborde pas d'essai.
Oui, voilà. Et du coup, enfin, ce serait très très complexe quand même de. D'ailleurs, comment même résumer ça mais en même temps, tu vois, c'est une idée de spécial. Donc
Oui, donc c'est le premier spécial en 28 parties.
voilà.
Non, 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 c'est vraiment quelque chose de trop compliqué. De plus, la continuité changeant quasiment tous les mois avec les petits
Ouais,
rajouts pour chaque
puis
série. C'est quelque chose qui est vraiment impossible à faire. Et classer chronologiquement tous les arcs, c'est quelque chose d'impossible.
Non, non, mais par contre, on pourrait aborder éventuellement le sujet dans un spécial, mais alors. Bon, chronologiquement, je pense que ce sera à peu près aux alentours du Comic City numéro 162.
Qui bien sûr fera un petit trade-code et changera le Comic City numéro 25.
Voilà.
Non,
Voilà.
non, c'est un des problèmes de la continuité. C'est vrai que c'est quelque chose de super passionnant, mais voilà, je pense que l'intérêt, de toute façon, il y a déjà tellement de sites qui
Ben
s'occupent
voilà,
de faire
exactement. Il y a déjà
ça.
tellement de sites qui le font, et puis en plus par écrit, parce que la continuité aussi traitée par écrit, c'est déjà plus clair. Et déjà que c'est compliqué, donc le dire par oral,
Jamais.
d'expliquer comment fonctionne l'univers DC avec les 52 univers différents,
Mais ne
qu'à un moment
serait-ce que
ça a
l'univers
disparu.
Marvel avec les différentes terres,
Oui.
voilà, ça me paraît vraiment très 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 difficile.
Et ça va être assez compliqué, surtout pour nos éditeurs, à mon avis. Donc
On a 100 schémas pour pouvoir s'y référer.
Ouais.
Ne serait-ce que déjà expliquer par exemple câble.
Oui.
Voilà.
Voilà. Ben oui, non mais de toute façon, on a un nouveau rédacteur, super balèze, qui s'appelle Sam, qui nous a rejoint. Vous avez peut-être lu déjà quelques-uns de ses articles. Et bah Sam va s'en charger, de toute façon, il va faire un petit exposé sur la continuité Marvel DC, ça va pas tarder.
Mais
Donc
par
voilà.
contre, on va lui ajouter la difficulté parce que sinon ce serait trop simple, en seulement 28 lignes.
Et oui, mais moi j'ai envie de voir une petite série de 28, voilà, 28 articles de 28 lignes.
Pour un total au maximum de 28 000 caractères.
Voilà. Non, non, mais
C'est quelque chose de vraiment très 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 difficile. La continuité pour moi c'est vraiment quelque chose que l'on apprécie à petite dose en faisant ses propres recherches, en arrivant à placer tel ou tel événement à tel ou tel moment. Ça fait aussi partie de la lecture des comics et voilà, découvrir que telle chose s'est passée avant telle chose, arriver à remettre les choses dans l'ordre, en tout cas dans sa tête. Voilà, moi c'est un des plaisirs que j'ai aussi en comics, c'est d'apprendre une nouvelle chose en lisant un épisode, en me disant ah tiens, il s'était passé ça.
Un jour, j'ai essayé de lire les Spider-Man aussi, les séries principales, au fait, dans l'ordre chronologique. Et ça m'a mis 3 mois. Voilà. À lire je suis allé jusqu'à la saga du clone à l'époque. Jusqu'à la saga du clone, donc en reprenant du début de Amazing Spider-Man, et en lisant les séries Spectacular, Web of Spider-Man, Sensational, etc. Et à essayer de remettre les trucs dans le bon ordre pour qu'il n'y ait pas de. Comment dire? Bah, d'erreur de continuité, quoi, que tel ou tel personnage n'apparaisse pas avant, etc. Et c'était vraiment très compliqué. J'avais fait un schéma, et enfin j'avais fait la liste au fait des épisodes, et même en regardant la liste, il y a de quoi se flinguer, quoi. Donc.
Mais de toute façon, un des problèmes de la continuité, on l'a abordé en début de mois quand on a parlé de Messiah War et de l'épisode avec Hulk, notamment avec X-Force, et puis aussi par rapport à Utopia. Difficile d'arriver à placer dans le bon ordre Utopia, les épisodes avec Hulk et les épisodes de Messiah War,
Oui, déjà dans les années
qui sont
70.
publiés différemment, enfin pas forcément au même mois, et que certains se passent avant d'autres, enfin c'est très 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 difficile.
Oui, déjà dans les années 70, c'était difficile, mais alors après avec les années 80 et encore plus avec les années 90, autant dire que ça devient quasiment impossible.
Voilà, donc bah Vincent, peut-être un jour un spécial dessus, mais alors Ça demandera d'énormes
Mais quand,
recherches.
voilà.
Voilà, quand.
On verra.
On va continuer les mails puisqu'on en a reçu d'autres. Un mail de Garé. Petit mot pour vous dire que votre émission est énorme. Vous êtes passionnant, clair, amusant, avec une énorme connaissance des comics. Je suis souvent sur la même longueur d'onde que vos critiques, qui sont honnêtes, coordonnées. Je ne peux pas citer, pour certaines raisons, la suite du message. Mais Garé, si, bah, vu que tu nous écoutes régulièrement, tu sauras de quoi on parle. Donc voilà, bah, merci pour tes compliments. Je veux pas citer le reste pour éviter de déclencher une guerre. qui peut-être me ferait plaisir quand même un petit peu, je dois l'avouer. Mais voilà. Bon. En tout cas, merci à toi, Garé, pour.
Bah oui, merci, ouais, c'est super sympa et envoyez plein de mails comme ça, ouais, ça
Ça
nous fera
fait
plaisir.
vraiment très plaisir à lire. Et pour finir, un autre message de compliment de Cab, qui nous dit voilà, qui suit le podcast depuis un moment. Et que voilà, dans le dernier Comic City, on parlait d'un cyborg avec Fury. Ce cyborg, c'est Garrett, un personnage issu d'Electra que l'on retrouve dans la période Fall from Grace de Daredevil et d'autres séries Electra par la suite. Donc voilà, merci pour les compliments et puis aussi merci pour nous avoir éclairé un petit peu sur le cyborg. C'est le cyborg, c'est de Secret Warriors.
Ah oui, d'accord, oui. Ouh là là, j'étais parti moi dans Messiah War. Le truc a rien à voir. Ok,
Voilà.
d'accord.
Donc voilà,
Ok.
merci pour ces petites explications.
Mais oui, et puis merci pour tous ces mails, que ce soit d'encouragement ou d'éclaircissement, etc. Puisque bah voyez, vous êtes entendu, vous êtes lu, et puis vous êtes même lu à l'antenne, donc c'est formidable.
C'est vrai que là, maintenant, enfin, cette quinzaine, vu qu'on a un petit peu plus de temps, on peut se permettre de s'étaler un petit peu plus.
Oui.
Donc, c'est tout pour cette quinzaine. On se retrouve milieu du mois d'août pour les premières sorties du mois d'août, justement. Un mois qui va être extrêmement chargé, où il va falloir faire beaucoup de sélections.
J'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité. Il va falloir faire de la sélection.
Et vu qu'on sera en mode encore vacances, on fera peut-être une émission aussi courte que celle-ci, avec des choses que vous verrez sur le site pour accompagner cette sortie.
Et peut-être est-ce qu'on en fera qu'une ou on en fera deux?
Ça reste encore à déterminer. Donc, si vous ne voyez pas d'émission, de toute façon, il y aura un message qui vous dira si il y a une seule émission ou deux ce mois-ci.
Ce qui serait exceptionnel, mais
Ouais.
c'est les vacances aussi, un petit peu
C'est
quand
les
même.
vacances. Et un boulot qui nous surcharge tous. Donc,
Ouais.
voilà. Bon, on verra bien. On vous laissera un message de toute façon sur le site, sur Facebook, sur Twitter. J'en profite donc pour annoncer qu'on est sur Facebook et Twitter. Tu vois, une pierre deux coups.
Très bien.
Mais il n'y aura pas de message sur iTunes où vous pouvez retrouver tous les autres podcasts. C'est de l'enchaînement là, tu vois.
Oui, je suis impressionné, là, je suis bouche bée, là.
Voilà. Et puis bah, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser les commentaires, nous envoyer des mails, hein, on les lira à l'antenne, qu'on les lit quasiment tous de toute façon. Et puis bah c'est tout, hein, je crois. Et puis non, si, n'oubliez pas de passer sur le site de nos partenaires, Cable Chronicles, pour retrouver des news, des critiques de comics, etc.
Etc., comme tu fais bien de le préciser, avec nos amis Fuge, KiwiKid et Cable, bien sûr,
Voilà.
notamment.
Voilà, donc c'est tout pour ce 36e numéro. On se retrouve dans 15 jours ou dans une semaine pour ceux qui écoutent Comics Weekly ou dans quelques jours pour ceux qui écoutent les spéciaux.
Voilà. À plus tard, ciao, amusez-vous bien et lisez plein de comics et bonnes vacances.
À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.